Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
So you hear about Call of Duty 4?
Did I what?
Call of Duty 4.
What?
Call of Duty 4.
Call it Duty 4?
Call of Duty 4.
Call of Duty 4?
Yeah.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien, comment allez-vous?
Ça va et toi?
Ça va top.
Très bien, ça va top toi apparemment.
Bon, top,
ok,
top.
Très bien.
Top, top.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Vincent Tirel. Est-ce que tu vas bien?
Oui, coucou, je vais bien, je suis bien content d'être là.
Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Eh ben, j'avais pas pensé à ça, j'aurais peut-être dû préparer...
Je te mets en galère. Hein.
Un monologue.
Tu sais pas qui t'es, je te mets en galère.
Non, c'est vrai, ouais. Je sors tout juste du gouvernement. J'ai été rejeté. Non, mais je suis auteur, comédien, à temps partiel.
T'es auteur parce que tu viens d'inventer un truc sur le gouvernement, juste avant.
Ah oui,
t'as vu, c'est comme ça qu'on a.
Pas fou dingue d'ailleurs. J'ai été complètement emballé. Je suis plein sourire, je suis tout rouge d'un coup. Je sais pas pourquoi. Alors, il y a deux secondes, on était très bien. Et là, j'ai l'impression qu'on est 557 000.
Vincent, t'es un grand fan de Mickey Rourke.
J'aime beaucoup, c'est vrai. Je me suis dit, n'en parlons pas, je déconne. Non, on peut en parler. Il fait partie de mes cinq grands.
C'est une coïncidence de ouf parce que on l'aime beaucoup aussi. Du coup, on va se pencher aujourd'hui sur un de ses films, The Wrestler. Sorti en 2008 et réalisé par Darren Aronofsky, The Wrestler raconte l'histoire de Randy the Ram, ancienne star de catch des années 90, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, vivant dans une caravane et enchaînant les petits boulots loin de sa gloire passée. Ce film réunit un casting brillant, Mickey Rourke, dont c'était là le grand retour après des années difficiles, mais aussi Marisa Tomei et Evan Rachel Wood. Ce film obtint un Lion d'or à la Mostra de Venise et récompensa Mickey Rourke d'un Golden Globe pour sa prestation, ainsi que Bruce Springsteen, qui s'initie une chanson remarquable dans la même veine que Streets of Philadelphia. Then you seen me. Come and stand at every door. You've seen me always. Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais commencer avec Vincent.
Bah alors, c'est dingue et je crois que tu le sais pas. Et j'y ai pensé seulement en venant là.
Ok.
Mais c'est que c'est mon meilleur ami, donc je lui fais une petite dédicace, un petit coucou à Jambon. Le Jérémy Allio, je balance ton
nom. Ah, je pensais que c'était une vanne où tu disais c'est Mickey Rourke, mon meilleur ami, etc.
Bah attends, moi aussi je croyais que c'était une vanne, okay. Tout ce qu'il m'a dit. Enfin, même moi je pensais même pas à la vanne. Il me dit, pour ton anniversaire, je t'offre des places de ciné au MK2 Bibliothèque François Mitterrand et on va voir The Wrestler avec Mickey Rourke. Et je fais, ah, trop bien et tout. Et on débarque et puis il arrête pas de me dire, puis c'est génial, blablabla. Et moi je suis surexcité, mais surexcité. Donc lui, voilà. On rentre dans le truc et tout. Et là, ils font, voilà, bah, on vous présente l'avant-première. Donc je savais que c'était l'avant-première. Et en première du film, avec Darren Aronofsky. Tout le monde applaudit. Et moi, je fais, mec, il y a Darren Aronofsky. Il fait, bah ouais. Je fais, mais c'est complètement taré. Il fait, bah je t'ai dit, on va voir le film avec Mickey Rourke. Je fais, ok. Et puis je dis, bah y a pas Mickey Rourke. Il dit, bah si, connard. Enfin, c'est vraiment. Je dis, mais t'es con, quoi. Pourquoi t'es surexcité dans ce cas-là depuis une heure? Je fais, bah parce que juste, j'étais content de voir un film.
Il y avait des popcorns, quoi.
C'est la première fois qu'il va au ciné depuis 18 ans. Il est tout excité.
À 14 ans, je pensais même pas qu'un cinéma pouvait avoir deux salles. Je te jure que c'est vrai. J'ai vu ça, il y en avait salle 11, j'ai c'est marrant de rajouter un chiffre.
Au chiffre t'as grandi où?
Et de quoi?
T'as grandi où?
Dans la campagne, donc, à l'ouest salle. De ouais, il y avait une salle et c'était elle était magnifique en plus. Cinéma des années 50, je pensais que tous les cinémas étaient comme ça. Donc on y va, Mickey Rourke débarque. Donc moi je suis comme un dingue, je fais mais c'est pas possible. Il est super stylé, il parle de Michael Cimino etc. Enfin, il est stylé. C'est Rourke. Comme je l'aime, c'est-à-dire
qu'on comprend pas tout. Il y a toujours un petit style avec chemise, veston et grande chaîne qui dépasse.
À l'époque, oui, il était comme ça. Il avait la chemise débraillée et puis les lunettes sur le pif. Un pif refait, il respire plus avec.
Bien sûr.
Tu connais ce truc-là, il peut plus respirer par le nez.
À cause de la boxe ou
trop
à cause
de bagarre?
Les deux,
de
ouais, il y a des trucs. Ouais.
La coke, ça fait gros sur le pif, ça.
Non, okay.
Pour moi, je sais pas, mais.
Non, mais oui, il a aspiré du plâtre pendant des années, quand même. Mais il est génial. Et ouais, donc il débarque et puis il nous parle de ça, de Cimino, de l'accueil des Français avec les films qui, à Hollywood, se sont plantés ou en tout cas n'ont pas marché en salle ou quoi, forcément. Mais Il parle de l'année du dragon, j'allais dire les portes du paradis, c'est ça?
Oui, ouais, les portes du paradis. Ouais.
Et puis d'autres films qu'il a fait lui, l'Irlandais, tout ça. Des films qui ont marché en Europe en tout cas, mais qui n'ont pas été forcément bien accueillis. Quoi.
Et donc t'étais en feu de voir Mickey Rourke.
Ouais. Et donc il s'est barré comme ça, il a fait un drop mic à un moment en fin de phrase, il a fait ouais, puis machin, puis truc, etc. En 1981. Il finit, il se barre, du coup, ça pour rien. Mon pote me dit, hey, demande-lui un autographe. Je me dis, t'es fou. On est 10 à se lever dans toute la salle. Elle est longue cette anecdote. Je vais faire.
Non, elle est bien.
Il me jette mon petit carnet Moleskine où j'écrivais mes premières blagues dedans. Et puis mes premières, elle est 21e et pas forcément les meilleures. Et puis il m'envoie ça avec mon truc et je fais bon, bah ouais, au pif. Le garde du corps se pousse un peu, me pousse un peu. Je lui fais un gros coup de feutre dans le dos au garde du corps. Mais je me dis, j'ai pas peur, le garde du corps, il est moins baraque que Mickey Rourke. Okay. Qu'est-ce qu'il va me faire? Et Mickey Rourke, il me signe un vieux M,
putain,
en rapide. Et je fais thank you. Ah, super, il me fait welcome avec une grosse voix de daron que je peux pas imiter là. Il m'écrase la main, là, je fais
sa grosse paluche,
ouais. J'ai dit, mais touche pas.
Et donc, t'as encore l'autographe aujourd'hui, alors?
J'ai encore l'autographe, ouais, dans un carnet avec les premières idées de Golden à l'époque, tout ça, M6. Ouais.
Putain, trop bien.
C'est mon seul autographe.
Et donc, le film en lui-même, ton souvenir, ton premier souvenir du film?
Excuse-moi. Je suis parti un peu en vrille. Je vous ai parlé de ma mère ou pas? N'hésitez pas. J'en pensais rien. J'avais aperçu une bande-annonce parce que je pouvais pas me retenir. Mais, pas la méga claque, mais je me suis dit, propre, nature, élégant.
Très bien.
Voilà ce que je me suis dit.
Et trois mots qu'on demande quand Alessi vient filmer des fans à la sortie de la salle. Trois mots pour définir le film. Élégant.
Filmé en 35 mm. Panasonic.
Deux bandes noires en haut et en bas. Voilà.
Guillaume. Anamorphique.
Ton premier souvenir du film.
Mon premier souvenir, ben moi je l'avais pas vu au cinéma, mais je l'avais vu ensuite sur ma télé. Et je me souviens notamment, enfin je l'ai revu hier soir pour me remettre dedans. Et je me souviens d'une scène qui m'avait marqué, qui m'a encore marqué. C'est peut-être pas la scène qui vous marquera le plus, mais c'est la scène où il fait une séance de dédicace avec des vieux catcheurs et où il y a personne dans la pièce.
Ouais.
Et où ils sont tous, il y en a un qui est estropié, il y en a un qui dort et tout. Mm. Et moi pour moi, il y a ce truc où il se dit bah. Voilà. Tu sais, ma vie, bah, c'est de la merde, en fait. C'est nul, tu vois. Il y a un truc terrible où,
puis la musique est super à ce moment-là.
La musique, elle est parfaite. Et tu sais, pour moi, ça, c'est vraiment le résumé de tout, de se dire, OK, bah, tu sais, la fin d'une gloire, qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage, enfin, tu sais, comment ça se passe pour toutes les anciennes gloires, etc. Je trouve que c'est un film, pour moi, c'est un film hyper, hyper touchant, hyper émouvant. Et je l'ai revu hier et je me disais putain, mais c'est vraiment, comme tu dis, il est hyper simple, mais qu'est-ce qu'il est beau, tu vois.
Ouais.
Franchement,
il a réussi à le garder simple.
Ouais. Et le parallèle entre le retour un peu de Mickey Rourke et le parallèle hyper évident entre les deux, là, je trouve ça fou, je trouve ça trop bien.
Aurélien, ton premier souvenir?
Bah moi je l'ai vu au ciné et c'est un peu comme Guigui, je pense. C'est plutôt comme Vincent, je lui ai fait signer un autographe. Non, c'est complètement faux.
Aronofsky à côté de...
J'ai appelé Darren et... Non, c'est pareil. Moi, c'est les scènes avec Marissa qui m'ont marqué parce que déjà, je la trouve méga belle, tu vois.
Ouais, grave.
Et en fait, c'est la première fois qu'il y avait vraiment des acteurs, tu sais, vieux, et on parle du fait qu'ils vieillissent, en fait.
Exactement.
Tu vois, c'est censé être des boulots où normalement tu vieillis pas, tu vois. Genre catcheur, strippeuse, tout le délire autour des années 80, tu sais, qui sont quand même glam cheap maintenant de fou. Et en fait, se dire que ça reste cool d'écouter Guns N' Roses, tu vois. Moi, j'ai réécouté Guns N' Roses pendant 3 semaines après ce film.
Ouais.
J'avais vraiment trouvé ça trop bien. Donc, je me rappelle surtout de ça. Une sorte de nostalgie, mais bien écrite. Genre, pas mal placée, tu vois. Et qu'est-ce qu'on fait, ouais, comme toi, genre, qu'est-ce qu'on fait une fois que la gloire, elle est passée? En fait, on dirait que c'est né un 4 juillet, mais pour la pop culture, tu vois. Genre, pas la guerre.
C'est vrai, ouais.
C'est pas pour les vétérans de la guerre, tu vois, c'est pour... il revient pas du Vietnam, il revient de le catch, la pop culture débile.
Quand
et qu'est-ce que tu fais quand t'es vieux?
Qu'est-ce qu'on fait quand on est has-been, quoi? C'est même quand ils en parlent dans le bar, ouais, Kurt Cobain, il a tout détruit et tout, les années 90, c'est de la merde, nous on est des années 80, ça y est, on est has-been. Et il y a un truc où, bah, on ressent un peu ça nous aussi.
Ouais.
Non, un peu, tu vois.
Non, c'est ouf,
on est des Randy the Ram.
C'est ouf de se dire que, tu sais, le Guns N' Roses, qu'il kiffe, c'est celui du premier album,
ouais,
tu
ouais,
vois.
Exactement.
Et genre, après, c'est devenu nul.
Ouais.
Alors que c'est le moment où tout le monde kiffe, en fait.
Ouais, c'est vrai.
Donc, ouais, toute l'ambiance, Motley Crue et tout, Biker et tout. Enfin, je sais pas.
Ouais, cette nostalgie, elle est touchante, alors que la scène, elle est un peu dynamique. Mais avec, ouais, avec le gamin, avec la Nintendo, là.
Ouais, ouais.
Il joue avec son. Enfin, il a été quand même représenté dans un jeu Nintendo 4.
Ouais.
Et tu le vois jouer avec son perso, son propre perso. Il est content de mettre une rouste ou de réussir peut-être à tuer le gosse.
Ouais.
Ça m'a un pic au cœur que je fais. Ouais. Oh là là, c'est fini.
Et ça, c'est ma scène préférée dans le film, celle du jeu Nintendo, parce que il y a le gosse qui lui répète. Pour ceux qui connaissent pas la scène, en gros, il est dans sa caravane et puis il appelle les petits qui sont en train de jouer là-bas. Manifestement, un petit avec lequel il a l'habitude de jouer à la console. Il a une vieille Nintendo, une NES, et il lance un jeu qui est un jeu de catch. Et dans ce jeu de catch, comme t'as dit Vincent, il est le héros du jeu de catch. Il a son perso dans le jeu. Et t'as le petit qui lui dit, t'as pas Call of Duty 4? C'est quoi? Call of Duty? C'est quoi ça? Call of, tu sais, on sent qu'il est à la ramasse, quoi. Il est largué totalement. Et justement, c'est là qu'on montre que, bah voilà, la gloire passée, le gars qui est en dessous de tout, quoi, qui est resté bloqué dans les années 80, quoi. Mais j'adore cette scène. Moi, j'ai un rapport très intime à ce film. C'était une des histoires, d'ailleurs, que je racontais, dans le livre Sans film, sans histoire. En fait, quand il est sorti, moi, j'habitais à Montréal et je venais d'arriver à Montréal. Donc, moi, à l'époque, je connaissais personne. Et j'avais vu la bande-annonce, j'aime beaucoup le cinéma d'Aronofsky, j'avais vu la bande-annonce et j'avais trouvé la bande-annonce top. Et voilà, et donc j'arrive à Montréal et puis je connais personne, j'arrive là-bas, je suis entouré de personnes, j'ai pas encore eu le temps de rencontrer des gens. Et puis arrive, alors je sais plus si c'est Noël ou le jour de l'an, mais en tout cas un soir où tout le monde se réunit. Et puis c'était la semaine où sortait The Wrestler à Montréal. Et donc je suis allé voir ce film-là, je sais plus, soir de Noël ou soir du jour de l'an. Il y avait deux personnes dans la salle, dont moi. Et le film m'a touché parce que finalement, ce film, ça parle aussi de sa solitude. Il est seul, ce gars. Mmh. Et moi, à l'époque, j'étais vraiment seul là-bas. Je connaissais personne et tout. Et donc, il y a un truc où je me suis identifié au personnage parce que lui était seul, moi, j'étais seul et tout. Et je me souviens de ce moment où je suis sorti de la salle de cinéma. Il y avait plein de neige parce que forcément, on était fin décembre à Montréal. Et puis, à travers les fenêtres, je voyais les gens qui faisaient la fête, qui se réunissaient. Il y avait personne dans les rues. Puis moi, j'avais la musique de Clint Mansell en tête qui tournait en boucle. Et j'ai fait un truc, je me rappelle, j'ai fait un truc vraiment ambiance Randy the Ram après. C'est que là-bas, il y a plein de vieux bars un peu crasseux, ambiance Amérique du Nord. Et je suis allé dans un bar, il y avait juste deux, trois personnes, une vieille qui jouait un truc de casino au fond et tout. Et j'ai demandé un whisky alors que je bois pas d'alcool. Et j'ai trouvé ça vraiment dégueu, j'avais pas fini le whisky, puis je suis resté juste 10 minutes et tout. Mais je voulais me faire une ambiance Randy the Ram avec mon whisky seul dans un bar et tout.
C'est hyper touchant ce que tu racontes. Il y a plein de films pour lesquels ça peut faire ça parfois, où soit on se projette même à une autre époque. On se dit, ça me rappelle il y a 5 ans ou quoi, ou ça me rappelle peut-être le futur aussi. On se dit, ça se trouve là dans 2 ans, je vais en être là ou quoi. Même si on le ramène pas forcément à soi, ça peut être à quelqu'un d'autre ou quoi. Mais parfois, quand tu m'en parles, j'ai l'impression que t'as profité d'avoir un cinéma là 5DX puissance 7, où t'as les odeurs quand tu sors, limite t'as eu les odeurs des.
Ah, mais je me souviens tout, même de la musique, tu vois, j'ai la musique de Bruce Springsteen. C'est dur à dire Bruce Springsteen.
Il est revenu.
À la place, je dis Eminem.
C'est pareil. Enfin bon, voilà, c'était un gros souvenir, et du coup maintenant quand je repense à ce film, je repense toujours avec tendresse. J'ai préparé une question en vous demandant s'il y a un moment qui vous a marqué dans le film, et finalement vous avez tous répondu parce que
c'est vrai.
On a parlé de moments comme ça qui sont cultes dans le film. Aurélien,
c'est moi.
Ce film, s'il est aussi réussi, c'est parce que
t'as fait le son.
Bah, la prestation de Mickey Rourke qui est remarquée. Il effectuait là une sorte de grand retour après des années compliquées. Pourtant, au début de sa carrière, l'Amérique voyait en lui le nouveau Marlon Brando.
C'est vrai. Très tôt, il a été remarqué. Il voulait vraiment devenir. Enfin, en fait, on peut le dire. Il a toujours eu deux trucs dans sa vie, Mickey Rourke. C'est le sport et les sports de combat, la bagarre, notamment la boxe, et une sorte de acteur naturel, en fait. Donc très tôt, il était naturel. Il a fait acteur studio et il a fait apparemment une entrée. Enfin, il a fait un premier casting. Il a été pris directement acteur studio. Il y a Elie Kazan quand même qui a dit que c'était le plus gros casting depuis 30 ans qu'il avait vu. Donc tu vois, c'était.
Et c'est pas évident d'entrer à l'acteur studio. Je rappelle que quand Pacino a passé la première audition dans les années 60, il s'est fait refuser. Donc c'est vraiment très sélectif.
Non, c'est un truc de fou. Et en fait, comme tu l'as dit, au tout début de sa carrière, il va tourner uniquement avec des réalisateurs incroyables. Ça veut dire que sa toute première apparition dans un film, c'est 1941 de Spielberg. Donc c'est un tout petit rôle, c'est-à-dire que déjà il est sur un plateau avec Spielberg, tu vois. Ouais. Et le deuxième film, c'est en 80, et t'en as parlé Vincent, c'est Les Portes du Paradis de Cimino. Ouais. Le film, c'est un flop de psychopathe, mais c'est la plus grosse production indépendante de l'époque. Cimino qui vient de faire Deer Hunter, donc bref, il a pas un grand rôle, mais il est dans cet environnement-là, quoi. Et après, Coppola veut le mettre dans The Outsiders, qui est son film un peu de gangster début 80. Finalement, il le met dans la suite, Rumblefish. Mais c'est-à-dire qu'il est, c'est Coppola, c'est Cimino. Enfin, c'est un délire. Et après, les deux rôles qui vont un peu le mettre sur le devant de la scène, c'est dans Diner de Barry Levinson, où il fait partie des six acteurs, donc, un groupe de potes, quoi.
Dans Die Hard, il y a une scène justement un peu culte avec Mickey Rourke où en gros ils sont au cinéma.
Ouais.
Il a une boîte de pop-corn devant lui.
Ouais.
Et la fille à côté prend du pop-corn, sauf qu'il a fait un trou dedans pour mettre.
C'est la fameuse blague du trou dedans. Bon, c'est là, on peut plus la faire en 2021, mais à l'époque, non, c'était rigolo.
J'ai repensé quand j'ai vu le film, il y avait plein de scènes odieuses.
Ouais, bien sûr.
Ok, ça se passe dans les années 50. Je crois que c'est ça, à peu près.
C'est censé se passer dans les années 50, ouais, parce qu'en fait, c'est la série de Barry Levinson où il fait toute la ville de Baltimore. Il fait cinq films sur la ville de Baltimore.
La scène des vinyles où il parle hyper mal à sa meuf et tout.
Ouais. Non, mais il y a ça, l'autre qui est odieux. L'autre, c'est le mec des casseurs-flotteurs de.
L'acteur, je connais tous les 45 tours. Tu lui sors un 45 tours et il sort le nom, l'interprète, la durée où ça a été enregistré. Mais c'est tous des monomaniaques débiles, en fait.
Il y a des scènes, en effet, comme ça où ça. Enfin, les meufs prennent cher, c'est. Mais ça est dur, quoi.
C'est un super
ça a vieilli.
Il y a une petite ambiance.
Des années 80 et des années 60.
Il y a une petite ambiance Happy Days dedans.
Ouais, c'est ça. Mais après, dans ce film, c'est vraiment Mickey Rourke. C'est Mickey Rourke vraiment qui explose l'écran et tout.
Oui, bah non, mais il est
beau gosse de fou. Ouais. Il a ce côté un peu déjà Darkos où tout le monde le kiffe, mais en même temps, on sent qu'il a des histoires d'argent. Il doit de l'argent à tout le monde.
Et aussi, il est magnétique, je trouve.
Ouais, tout de suite. Ouais. Et donc, c'est là qu'arrive son délire de. C'est le James Dean de la génération 80. Il a un truc un peu. Rebelle, brûlant, un peu provocateur, dangereux, mais en même temps, il est beau gosse.
Ouais.
Et c'est avant les Johnny Depp, Brad Pitt et tout, finalement, qui vont avoir ce rôle-là après. Mais lui, c'était lui, en fait. C'était Mickey Rourke, quoi. Dis-moi.
C'est vrai, mais là, je fais ma petite fan. Pour le côté magnétique, c'est vrai qu'il y a un coup, ça m'avait. Même avant d'avoir trop lu de choses sur lui ou quoi, ça. Je m'étais dit, bon, c'est qui ce gars? C'est pas possible.
Ouais.
Dans 9, 7 et demi, ils débarquent, ils font débarquer, je crois, sur un seul plan, où il y a un mec qui vient draguer Kim Basinger.
Ouais.
À la cool. Il lui dit un petit mot sympa, machin, il rigole, a fait, c'est marrant. Il se barre. Et dans le même plan, je crois vraiment que la caméra bouge pas, quoi. Lui, il débarque. Il dit pas un mot. Et bon, tu regardes le truc, tu fais, il sourit, il a charme avec un regard,
ouais.
Il se barre et tu dis, bon, bah, ok, d'accord, le mec, il vient de brûler la pellicule.
Rolo, quand ta meuf, elle a un nouveau boulot et c'est lui, son binôme.
C'est
Rolo.
C'est le côté Brando, comme tu disais,
c'est exactement ça.
Tu peux pas lutter, tu sais pas ce que c'est de la viande. Il le dit d'ailleurs dans The Wrestler à la fin, il fait, je suis plus qu'un vieux tas de viandasse. Mais tu fais, bon, bah, je sais même pas si t'as prévu ce que t'allais faire, mec, là, mais ouais. Ok, tu viens de relever tout le monde. Tout le monde t'écoute, en tout cas.
Bah, c'est ça. Il a vraiment un délire de charisme naturel qui plaît à tous les réalisateurs des années 80.
Ouais.
Sauf que là, on arrive au grand du problème. C'est que, pour le coup, il s'en rend pas vraiment compte et qu'il fait que des dingueries. Ça veut dire que tous les réalisateurs qui ont bossé avec lui ont dit que c'était hyper compliqué de bosser avec lui, notamment Alan Parker, avec qui fera Angel Heart, qui est un peu le film où tout le monde s'est dit, genre, waouh, si. Je me rappelle qu'il y avait un des réalisateurs, enfin, que j'ai relu là, qui disait. Si il était mort, notre ami Rourke, juste après Angel Heart, ça aurait été James Dean, en fait. Il aurait eu la même légende, ça aurait été pareil, parce que les quelques films qu'il avait fait l'avaient emmené à un tel niveau que c'était un truc de fou. Ouais. Mais voilà, c'est impossible de bosser avec lui. Aucun réalisateur arrive
impossible
à vraiment
de
le
tuer.
Bosser.
Personne n'arrive à le tuer.
Non, puis surtout, comme tu as dit, Vincent, il y a des moments où il choisit que des films qui marchent pas du tout aux US, donc qui sont des films d'auteur et tout. Notamment 9 semaines et demie, qui est censé une sorte de film un peu sensuel, sexy, qui est un gros flop avec Kim Basinger aux États-Unis.
C'est un film que tu conseilles de regarder avec ses parents.
Non, c'est clairement pas. Mais ça, pour le coup, ça crée une émulation de fou, mais hors des États-Unis. Donc c'est à ce moment-là que Mickey Rourke devient aussi une légende en Europe, parce que ça a été un carton en France, par exemple, 9 semaines et demie. C'est plus connu en France qu'aux États-Unis.
Ça vient de là, la question coquine, Joe Cocker.
Ouais.
Et ben voilà.
Ouais. Ouais, c'est vrai.
Okay. Pour ceux qui regardent Jean-Luc Reichmann, question coquine, Joe Cocker, c'est bien 9 semaines.
Première intervention de Guillaume.
En plus, j'ai cru que c'était une blague, parce que je me suis dit, c'est Ardisson. Ouais, je fais, pas du tout, c'est vraiment. Je viens de remettre.
Joe Cocker.
Je t'en prie.
Continue. Ça fait plaisir. Et donc, en fait, là, on arrive à l'orée des années 90, et c'est à ce moment-là que tout capote, parce que notre ami Mickey Rourke, il décide d'arrêter sa carrière d'acteur, parce qu'il a l'impression quand même qu'il fait que des mauvais choix ou que ça se passe mal. Donc vraiment, il dit soit les réalisateurs c'était les tarés. Enfin, il a dit régulièrement que Cimino pour lui c'était un débile et un taré. Bon, donc ça se passait pas bien sur les. Enfin, il avait du mal à rentrer dans ce que les réalisateurs ils voulaient lui faire faire. C'est-à-dire que la direction d'acteur pour lui ça n'existait pas. C'était je suis Mickey Rourke et on fait avec ou sinon on s'en va.
Quelque part un peu à la Marlon Brando quoi.
Exactement. Et en 1991, il dit j'arrête tout et je deviens professionnel de boxe. Donc, et là, il se retrouve à être vraiment pro. Et il disait, genre, c'est un délire parce que je me fais éclater la gueule. Après, il a eu des, il a eu, je crois, en 8 combats, il a eu 6 victoires, oui, 2 nuls. Donc, il était chaud quand même. Ouais. Et il disait surtout, je me bats avec des mecs qui ont 10 ans de moins que moi, la plupart du temps, parce que je suis quand même déjà assez âgé pour me mettre en professionnel. Mais c'est à ce moment-là aussi qu'il fait que des choix bizarres où on lui propose énormément de trucs parce que c'est le moment où il commence à être dans un deuxième milieu de carrière. Donc, il y a d'autres réalisateurs qui lui proposent des choses. Et lui, il refuse et il fait des films chelous, direct ou DVD, des espèces de thrillers un peu sexy, où c'est lui le rôle principal. Et donc, c'est un peu tout à la gloire de Mickey Rourke. Mais ça marche pas, parce que soit le scénario, il est nul, soit le réalisateur, il fait n'importe quoi, soit il s'embrouille. Et pour le coup, il y a que des films vraiment éclatés. Et c'est à ce moment-là, dans les années 90, qu'on se retrouve avec ce truc du choix Mickey Rourke. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Mickey Rourke choisit un film, on est sûr que ça va être nul.
Enfin, Double team.
Voilà, et en général, dès qu'il est dedans ou dès qu'il a choisi d'être dedans, ça va être le pire film de la filmo du réalisateur. Donc jusqu'à le milieu des années 2000, où il va revenir justement un peu avec des réalisateurs comme Rodriguez, qui va le mettre sur Sin City et sur le deuxième Desperado. Et là, aussi, ça va le recréer dans un truc
nouveau. Et aussi, l'année 90, c'est aussi la période où il se fait arnaquer par Christophe Rocancourt.
Exactement, ah oui. Parce que c'est à mon avis le moment où il sort à fond, qu'il est dans les milieux
Cocorico
de la boxe.
Cocorico.
Ah, on est là.
Enfin, en plus, je crois qu'il est dans les milieux... Il est dans les milieux Hells Angels.
Ouais, voilà, il a traîné. J'ai une anecdote à part, mais après, c'est débordé. Tout qui se mélange. Et tu nous fais ça super bien. Alors, moi, je suis aux anges, j'écoute. Mais, j'avais eu un truc sur Rodriguez, en tout cas, qui disait, putain, c'est pour qui? Pour, Sin City, ouais. Il avait dit pour faire Marv, mais mec, t'as halluciné. Pour moi, Mickey Rourke, c'est le mec qui baise dans 9 semaines et demie, le petit minet, quoi. Il a fait, non, je crois que t'as pas vu le gars. Et quand il est rentré, il dit qu'il a démanché un truc de porte en rentrant tellement il était large, à faire blaaah, désolé, j'ai pété le bout de bois. Bonjour. Et le mec a dit, bon, ok, d'accord, c'est une montagne.
C'est une masse.
C'est devenu une montagne. Donc, ok, on va le prendre.
Parfait
et tout.
Pour Marv.
Et puis, ouais, il était déjà un peu gaulé du visage carré.
En
tout
fait,
ça.
C'est ça le truc, c'est que c'était un méga beau gosse dans les années 80, mais ce truc d'être un boxeur, vraiment, il dit qu'il s'est fait casser plusieurs fois le nez, qu'il a eu plusieurs chirurgies esthétiques, et qu'en plus, bon, bah, c'est le moment où aussi, à mon avis, il charge un peu la mule. Donc, les deux ensemble, ça fait un délire de, un peu catcheur, proto, bagarre, voilà. C'est un délire quand même.
Après, il a poussé, ouais. Le truc, c'est Sanjay, c'est. Mais. C'est pas, c'est double truc, c'est pas
grave. Un petit jeu, hein.
Non, mais c'est pas ça, non, mais
tout à l'heure, j'ai dit Earth Angel, qui est la chanson de Retour à le futur, et pas du tout les Hells Angels.
Hells Angels, Hells Angels, les anges de l'enfer. Rock and roll, baby. Je vais brûler ta bagnole. Alors, ils ont pété une vitrine, il y a un mec qui m'avait raconté ça, qu'ils avaient pété une vitrine à, non, ça, j'avais lu, qu'ils avaient déglingué une vitrine à Paris, le mec disait, je lisais un autre espèce de truc qui était un peu, pas street press, je sais pas, c'est pas ça, mais un magazine, quand il y avait du papier, vous vous souvenez?
Ouais, Snatch.
Et je sais pas, j'avais 20 ans, quoi. Ouais. Et qu'il était avec les Hells Angels, et que le mec se dit, putain, les mecs, ils me détruisent ma vitrine de boutique. Et qui regardait que dans l'eau, il y a Rourke. Donc, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec ça.
Okay.
Il est avec les Hells Angels, pareil, quoi. Et un coup, je suis dans la rue. Je suis avec ma copine. Et on se balade. Et je lui dis, ah, tiens, il y a un petit Rourke, il y a un Rourke dans la liste. Au sol, il y avait des DVD tout pérave, quoi. Et je dis au mec, ah, il y a un petit Rourke, puis machin, je veux celui-là. Il me dit, un balle, deux balles, je sais plus. Il me les fait à un bal. Et le mec, il me dit, t'es fan de Rourke? Je fais, ah, vraiment, j'aime bien. On parle un peu de sa carrière. Il fait, moi, je bossais avec lui, je bossais dans sa boîte à Miami. Je fais, foutez de ma gueule ou pas? Okay. Et il me dit, non, il traînait là, ici, en France, avec les Hells Angels. Je fais, ouais, je suis au courant de ça. Ouais. Et il me dit, il m'avait embarqué, j'avais bossé dans sa boîte à Miami, j'avais son numéro. Bon, j'ai plus son numéro, j'ai plus de nouvelles. Je dis, bon, vous inquiétez pas, vous allez sur Insta. Mais, mais ça m'a tué que le mec, il me raconte ça. Vraiment, c'était un vieux brigand de Paris qui vend ses DVD par terre, quoi. Donc, je lui ai acheté, au passage, un des plus grands nanars que j'ai vu de ma vie. Et c'est un fou rire avec un pote, un fou rire interminable. Ouais. Requiem pour un tolard.
Ah
Requiem
pour un city. Celui-là, il est bien, celui-là.
Tout est dingue. Ouais. Tout est fou.
On dirait qu'il parle exprès.
Ah ouais, ouais. Vraiment, tu te dis, non, il l'a arnaqué, c'était juste une soirée coke, alcool, et il a dit au gars, vas-y, je te le fais ton film. Je sais pas ce qui s'est passé. Et je crois que le film, il date de. J'avais vu 99, et je me dis, quand même, à l'époque, à côté, il y a Titanic, et il y a Sixième Sens, et je n'en trouve pas d'autres, je sais plus quoi. Mais, et vraiment, il est question d'un tueur à fléchettes, qui débarque et qui flingue des mecs avec des fléchettes, et vraiment, le film se finit, je dis à mon pote, est-ce qu'on a réentendu parler de ce tueur à fléchettes qui va l'air méga important au milieu? Plus jamais. tout est dingue dans ce film. Et c'est génial. Mais il arrive à être bon dans plein de scènes.
Ouais.
Et puis certaines non, il fait juste un fashion, une fashion week, quoi. Il a 8 costumes, 20 costumes différents.
En cuir,
en truc, des chapeaux, des casquettes. Ouais, tout, ouais.
Ça donne envie de le voir, en tout cas.
Ouais. J'adore ce mec, hein, mais là, tu te dis, bon, t'as craqué.
Là, tu rebondis.
Excuse-moi.
Non, mais tu rebondis bien parce que tu parlais justement des choix de Mickey Rourke.
Ouais.
Et je voulais faire un petit jeu avec tous les rôles que Mickey Rourke a refusé dans sa carrière, surtout dans les années 80 et 90. Il y en a un paquet.
J'en ai qu'un, en tête.
Des mauvais choix.
C'est le fait qu'il n'a pas pris le choix, justement. C'est un mauvais choix du fait qu'il n'y est pas allé, alors que tous ces films sont des succès.
Ouais.
Et sont des gros cartons, et les rôles pour lesquels il était, c'était assez incroyable. Il y a vraiment de tout.
Toy Story.
Je vais commencer avec un premier film, donc des années 80. Je vais quand même vous donner un indice. Attention, je chante très mal. Roxanne!
Police de Piala, il a refusé le rôle de Sandrine Bonner.
C'est ça.
L'indice fou.
Je l'ai, 48 heures.
C'est en effet 48 heures à la base. Au tout début, Mickey Rourke, on lui a proposé le rôle de Nick Nolte à la place pour jouer avec Eddie Murphy.
Pourquoi pas, ça aurait bien marché.
Ouais. Voilà, Walter Hill était très fan et donc vu que c'est sorti au début des années 80, c'était au moment où Mickey Rourke était vraiment dans son l'œil du cyclone.
Cool.
Si on reste justement dans un buddy movie, un film qui est sorti en 95, qui n'a plus rien à voir. Voilà.
The Bad Number?
Non.
Attends. C'est 94.
Un buddy movie vraiment bagarre en mode 48 heures, mais qui sort 10 ans après, alors que le projet était 10 ans avant. On y est presque, c'est un peu plus tôt.
Oh, bordel, je comprends rien la question.
Bon, allez, je vous donne un indice.
Non, tu t'indices, ouais.
Un indice, Michael Bay.
Bad Boys.
Bad Boys, ouais, d'accord.
En effet, la première version de Bad Boys, le scénariste et le producteur, il voulait que ce soit Nick Nolte et Mickey Rourke.
Ah ouais.
Okay. Ça aurait bien cassé des bouches aussi.
Au final, ils en ont fait complètement autre chose. Film années 90, donc pas du tout la même chose que ce qui était prévu.
C'est fou. On a eu peut-être de la chance, mais en tout cas, c'était génial, Bad Boys.
Si on reste avec Eddie Murphy, Mickey Rourke, il a refusé un énorme rôle qui aurait peut-être pu changer sa carrière, qui est sorti en 84.
Le flic de Beverly Hills.
Base, le flic de Beverly Hills.
Il se retient là parce que toi t'as tout, t'as une encyclopédie. T'as une encyclopédie, tu viens d'en sortir une. Allez promo, instant promo.
Mickey Rourke avait été le premier à qui on aurait proposé le rôle de Beverly Hills Cops avant que ça devienne un film 100% Eddie Murphy.
Dans mes souvenirs, je sais que ce rôle a été proposé à vraiment beaucoup beaucoup d'acteurs.
Ouais,
José Garcia et tout, non?
Ouais, je crois.
Pujadas.
Pujadas.
Alain Delon, enfin tout le monde quoi. Ensuite, un petit indice, on est un peu plus tard dans les années 80, si je vous dis au capitaine mon capitaine.
Ah, ça n'est pas disparu.
Will Hunting.
Exactement, c'est le même personnage. En effet, on lui a proposé le rôle de Robin Williams dans.
Ça n'aurait pas du tout.
Et en fait, ils avaient carrément commencé à bosser le film avec Peter Weir. Mais Mickey Rourke a dit je veux bien, mais il faut réécrire un peu le personnage. Ouais, et Peter Weir, il a dit non. Et après, il a pris Robin Williams.
Oui, il a bien fait.
T'imagines, c'est un délire quand même.
Comme il est vénère.
Ouais, bon, ça dégage. Sans Robin Williams, ça aurait été un délire quand même.
J'ai vu un bon film hier. Je me permets comme ça une petite. J'ai vu un des films qui me manquait de Christopher Nolan, à savoir Insomnia. Est-ce que vous l'avez vu, Insomnia?
Oui, mon gars.
Ah ouais.
Bah oui. Et du coup, c'est un film intéressant parce que c'est avec un Robin Williams qui est flippant. Comique.
Ouais. Non,
très rare que ça arrive.
Et il fait un peu flipper. Hein.
Comme dans Photo Obsession. Il joue bien le mec flippant. Il joue bien le mec flippant.
Ouais.
Et c'est une sorte de. Enfin, c'est un thriller avec Al Pacino et Hilary Swank. Et c'est vraiment bien.
Ouais, c'est ça. Ça se passe. Ouais. Il fait toujours jour.
Exactement. Ça se passe dans une ville où il fait toujours jour en Alaska. Courage.
C'est flippant.
Je l'ai vu en me disant tiens, en fait, Nolan. Maintenant que je commence à faire connaître, pas les masses finalement, mais je me suis dit tiens, j'avais ce DVD. J'avais pas tilté à l'époque que c'était Nolan, quoi.
Ouais. Moi aussi.
Et donc je me suis dit je vais regarder, Et je me suis dit c'est bien. J'ai vu il y a un mec en chauve-souris, c'est n'importe quoi. Et je me suis dit il savait bien réaliser déjà à l'époque.
C'est fou
que Pacino ait validé ça. Je me faisais surtout une grande session Pacino, je crois.
Ouais.
Et je m'étais
pas
dit
mal.
Vrai, pas mauvais ce petit acteur.
Prochain tag Al Pacino, ça sort mercredi prochain. Tag de Pacino. Oui, donc
si on peut venir revenir au jeu.
Oui, complètement. D'ailleurs, tu as quand même des grosses perles. Pardon.
T'as des gros dossiers?
Merci, ouais.
Ah, j'ai trouvé ça sur l'internet. Sur internet. Petit indice, on est sur un film de guerre. Et si je vous dis, la seule chose qui peut tuer Barnes, C'est Burns lui-même.
La ligne rouge, mais j'ai pas la ref. Non, je me suis trompé.
Non, c'est un peu plus tôt. On est toujours dans les années 80.
Non,
mais si je vous dis, voilà, exactement. J'allais vous dire Oliver Stone.
J'ai dit ça au pif.
Avant, Oliver Stone avait proposé le rôle de Willem Dafoe à notre ami Mickey Rourke. Donc le gentil quand même.
Ouais.
À la place, c'était pas Tom Berenger. Moi, j'aurais bien vu Tom Berenger. Je sais pas si on dit Béranger ou juste
Béranger. Moi, je dis Béranger.
Béranger. On peut dire Béranger même. Mais en gros, il aurait joué le Elias, le sergent Elias Grodin. Et c'était bien avancé. Et au final, il a dit non.
Ah, il est dingo.
Comme d'habitude.
Mais c'est fou, c'est vrai que il aurait été bon là-dedans. Il aurait été bon partout.
Alors là, j'en ai un chaud, un très chaud. Et j'ai un indice où je vais encore chanter, ça va être nul.
Ah,
This kind of magic.
C'est kind of magic de Queen.
Drag Queen.
Highlander.
Highlander. Oh, le tout premier à qui avait pensé pour le rôle d'Highlander, c'était Mickey Rourke.
Le nom d'une pièce.
Et ça a failli se faire.
Pourquoi pas?
Et au final, il a dit non. Et c'est notre ami et
Christophe Lambert.
Copain Christophe Lambert qui a pris à la place. Voilà, fois. Tout à fait.
On connaît le réel du premier Highlander? Non, si. C'est connu ou pas?
Non, je
ne sais pas si c'était nom.
Si, attends, en plus, j'avais dit ça il y a pas longtemps. Il a fait pas mal de films après qui étaient plutôt sympas.
Je vais
regarder cette pompon, tu continues, je regarde.
Allez, on revient là-dessus. Là, j'ai deux films où l'indice, c'est Tom Cruise.
Eh bien, d'accord.
Des films, c'est très mince comme
film. Deux films des années 80 et des films les plus connus des années 80. Tom Cruise. Top Gun. Là, je sais pas quel rôle on lui avait prévu, mais on a approché Mickey Rourke pour vraiment qu'il fasse un rôle de Top Gun.
Le réalisateur de Highlander, effectivement, on est méga pas connu.
Ouais.
C'est Russell Mulcahy.
Il a pas fait.
Il écoute et il fait les gars, wow. Alors, j'ai bossé.
C'est un autre ton, hein. C'est un Australien.
Mais il a fait un autre film.
Je regarde. Highlander 2, il a fait.
Ah, voilà.
Un de mes grands fous rires et un espèce d'oiseau volant.
Et non, The Shadow en 94.
Voilà, The Shadow. Volant. Voilà, c'est ça que je pensais. Bon, c'est pas terrible non plus.
Il a fait la série Teen Wolf, série télé.
Ah, voilà, excellent.
Voilà. Désolé.
Je rigole. Donc un rôle pour Top Gun et aussi dans Rain Man, dites-vous.
Oh non.
Le rôle de Charlie Babbitt.
Entendu parler, ouais.
À la base, c'était pour notre ami Mickey Rourke parce que c'était encore Barry Levinson, le mec qui l'avait dirigé dans Diner. Donc il lui avait dit, je veux que ce soit toi, Mickey. Et il a dit, ouais, non. Et là, il y a Tom Cruise qui rentre.
Ah ouais.
Ça aurait été intéressant de le voir face à Dustin Hoffman.
Ça aurait été pas mal, je pense. Parce que là, le rôle de Tom Cruise un peu branleur et tout, ça lui aurait donné un peu plus de charisme, ça aurait été pas mal.
Ah, je veux aller dans un autre univers où ça s'est arrivé, où ça s'est passé. Ça va? J'articule plus.
On arrive dans les derniers films, un film un peu plus flippant. Indice, Jodie Foster.
Le silence des agneaux.
Le silence des agneaux. Il devait jouer le rôle du flic qui est avec Jodie, qui est joué avec Scott, qui est joué par Scott Glenn dans le film original. Et il a dit non. J'ai dit non, je pense que ça va pas marcher, c'est pas un film exceptionnel.
Imagine s'il avait fait tous les films que tu dis.
Ça aurait été un truc de fou.
On disait encore son nom maintenant, et il y en a plein qui ne voient pas, ou alors qui se disent « Ah, c'est le mec qui a une gueule bizarre
».
Alors que non, déjà, il a eu 24 gueules bizarres. Mais surtout, c'est un purée.
Alors, j'ai un dernier film des années 80 avec un indice, c'est Al Capone.
Moi, j'ai failli jouer dans la vidéo...
Les Incorruptibles.
J'ai failli jouer dans la vidéo L'épreuve de Norman, mais ça s'est pas fait.
Ça a raté,
j'ai toutes les vidéos que j'ai pas faites, je peux te les faire.
Ah bah voilà, on va le faire. Ça, c'est le bon, voilà, c'est le prochain.
T'as dit quoi justement?
Indice Al Capone, film des années 80.
Les Incorruptibles,
en effet, Mickey Rourke devait être Elliot Ness.
Non, mais je voulais attendre qu'il gagne.
Ouais, il l'a dit.
Justement, j'ai fait. Je voulais que ça rejoue. J'ai fait, va rejouer. C'est trop bien. Ça, je savais pas, non. Mais tu m'as dit Al Capone. Je me suis dit, soit c'est Capone avec Tom Hardy.
Ouais.
Que j'ai pas vu du tout. Ça aurait été cool, ça.
Ouais, à la base. À la base, Brian De Palma avait pensé à Mickey Rourke pour faire Elliot Ness et ça finit en Kevin Costner. Parce qu'il a refusé.
Il est bien dedans en tout cas, mais je crois qu'il est bien dedans.
Après, j'ai juste des dernières anecdotes avec un réalisateur qui est fan de Mickey Rourke depuis toujours, qui a commencé, on va dire, sa carrière dans les années 90 et que tout le monde connaît ici parce que son prénom c'est Quentin.
Tarantino. Et il l'a pas mis dans rien.
Avec lui.
Parce que Pulp Fiction, le personnage de Butch, il est écrit pour Mickey Rourke à la base.
Ouais. Pas mal. Aurait purée.
En fait, il l'avait vu pour ça. Il voulait faire comme John Travolta. En fait, il voulait lui redonner une sorte de seconde jeunesse avec le personnage du boxeur qui était censé être Mickey Rourke le boxeur.
Surtout qu'en plus, il le fait bien, ça, Tarantino, de reprendre des acteurs un peu à la ramasse.
Ouais.
Il voulait faire ça avec Stallone. D'ailleurs, je crois qu'il voulait mettre Stallone dans. Il avait aussi pensé d'ailleurs à Stallone pour le rôle du boxeur.
Du boxeur, ouais. Pour faire en mode Rocky et tout. Au final, Mickey, il a refusé et donc c'est parti du côté de Bruce Willis.
Ouais, mais ça fonctionne bien, Bruce Willis.
Ouais, ouais, c'est bien, franchement, il n'y a pas à dire. Mais c'est vrai qu'avec Mickey, ça se trouve, ça lui aurait donné un truc. Après, il y a un autre film dans les années 2000 pour lequel Tarantino avait pensé à lui. Est-ce que vous pouvez deviner lequel?
Le Boulevard de la Mort, non, je l'imagine
bien là-dedans. Exactement.
Ah, ouais.
Allez, à la base, il a son premier rôle, il avait écrit le Stuntman Mike pour Mickey Rourke. Mickey a dit non. Et donc, c'est Kurt Russell qui est rentré. Et c'est aussi une façon pour notre ami Tarantino de mettre Kurt Russell dans la boucle, parce que c'est la première fois qu'il jouait avec lui.
Et quand on sait que Tarantino a déclaré qu'il allait plus faire qu'un seul film, ça se trouve on verra jamais Mickey Rourke dirigé par Tarantino.
Ah ouais, je crois que sa mémoire est plus très bonne de ce que j'ai lu.
Mickey.
Mais je sais pas, ça se trouve.
Je le suis sur Insta. T'es déjà allé sur son Insta ou pas?
Complètement.
Ok. Je le suis sur Insta il y a toujours un peu des looks improbables et tout. Et avec tous ces chats, mais c'est des petits chihuahuas.
Ouais.
Du coup, ça colle vraiment pas au perso.
Il a voulu caler ça dans HB, un film. Je crois que c'est une réalisatrice. Peut-être que je dis des bêtises. Là, vraiment, faut tout checker. réalisatrice de HB. Le film, pas ouf, mais au final, je me dis, j'ai envie de voir Rourke et je me dis, bon, il a.
Ah, j'ai vu ça.
Son visage est encore un peu abîmé. C'est encore une transition un peu, mais tu vois encore tout dans ses yeux et à des moments, tu sens vraiment. Mais il y a une espèce de scène où ils se sont loupés un peu sur une réplique avec le jeune et les deux improvisent. Enfin, tu vois qu'il continue de jouer, quoi. Ouais. Il le coupe sur un truc, il fait quoi, pardon. Et tu sens que c'est joué. Ouais. Le réel a dû se faire, non, on garde ça.
On garde.
C'est des micro-trucs comme ça. Mais ça m'a touché parce que t'as l'impression parfois, en effet, de voir un visage même plus tanné. C'est genre du fantastique.
Souffle,
mais tu vois ses yeux derrière et.
Mais je me suis demandé ça, justement. Est-ce qu'on connaît un autre acteur qui a fait une dégringolade physique à ce point? Parce que là, on parle quand même du Maxi Bogos, tu vois.
En
du
vrai,
Maxi
Bogos. Christophe Lambert, un peu, quoi.
Ouais.
Ouais, non, mais.
M'a marqué,
Val Kilmer, gentil, ça,
ah, mais Val Kilmer,
ouais,
le pauvre,
il est malade.
Bah, il est malade, mais je veux dire, c'est pareil,
il s'attaque à tout.
Bah, tu parlais de Travolta, peut-être un moment, il a eu un peu visage changé quand même, mais.
Travolta, j'ai vu récemment, il est beau gosse, attention.
Oui, voilà.
Ça revient, ça revient.
Non, mais là, on a une dégringolade. C'était le Maxi Bogos qui est devenu. Désolé, mais.
Il a eu des transitions, en plus. Vraiment, il était un peu gros, carré, machin. Là, clairement, son nez a changé, la forme de la mâchoire, la dentition.
Mais c'est aussi ça qui est fascinant.
Ça commence à gonfler. Hein.
Ça devient un Bogdanov un peu.
Mais c'est aussi ça qui est fascinant dans The Wrestler, parce qu'il a vraiment une tête qui colle au job, quoi.
Il est perfect. Moi, c'est la scène qui m'a le plus touché. C'est la scène peut-être un peu facile, on va dire. Mais c'est parce que c'est celle où il pleure. Mais d'ailleurs, il se retient un peu. Mmh. Lui, il pleure. J'ai
l'impression qu'il peut pleurer le matin.
Et ouais. Il lui dit, je suis une vieille bourrique toute pourrie, mais je suis Al, quoi. Puis je t'aime. Et tu fais, oh là là, mon gars.
Oui,
tu t'es livré 20 ans trop tard, mais tu t'es là, quoi.
Mais même, on en a pas parlé, mais la scène du supermarché où un type le reconnaît.
Ouais.
Du coup, ça le saoule parce que ça le touche dans son ego. Cette scène, elle est folle.
Alors, je sais qu'il était avec une meuf. Je le connais pas perso. Il était avec une fille où il avait fait un autre 9 semaines et demie. Je suis désolé de mal connaître tout comme ça. Ma mémoire, moi, me fait défaut aussi pas mal.
C'était pas de la boxe.
L'Orchidée des Sauvages.
Je suis à deux doigts de péter un câble perso.
Non, mais ouais. Excusez-moi. Mais L'Orchidée des Sauvages avec une. Avec sa femme. Otis, je sais plus comment ça s'appelle. Otis, quelque chose. Otis, Carrie Otis. Allez, terminé. J'ai retrouvé ça. Je sais pas comment j'appelle.
Dites-nous sur Twitter si Vincent se connaît en ciné.
Ouais, d'accord.
La pellicule.
24 images par seconde. La vérité, c'est le cinéma français.
Il s'y connaît, finalement.
Philippe Godard. Allez, au revoir.
Philippe Godard.
Non, enfin, bon, bref. Et en gros, il lui avait dit, il était un peu foudingue, quand même. Clairement, il était un peu relevé. Et il l'avait menacé de pas. Il lui dit, si tu me quittes, je me coupe le doigt. Elle a fait, bon, je te quitte, en fait. Il s'est coupé un bout de wad.
Ah ouais.
Et
ah
donc,
ouais.
Il s'est coupé un bout de wad avec un hachoir, je sais plus quoi. Et
un
donc, ils ont calé ça dans The Wrestler. Je pense que c'est lié parce que c'est pas possible.
C'est une anecdote très tabzienne que tu nous amènes là.
Bah, ah bah ouais.
Bah on est ravis.
Mickey Rourke. Non, je l'imite très mal.
Ouais. c'est pas mal.
Non, mais ouais,
alors, justement, tu parlais juste avant de 9 semaines et demie. Et faut savoir que, via les abonnés de Tales from the Click, il y a plusieurs générations qui nous écoutent. Ça va, on va dire, de 14 à 40 ans et un peu plus. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vivent encore chez leurs parents. Et quand tu vis chez tes parents, tu peux être amené à regarder un film où il y a une scène de cul avec tes parents.
Ouais.
Comment on gère ça, Guillaume?
Alors moi, ça m'est déjà arrivé, figurez-vous, parce que je suis allé au cinéma voir, à l'époque, Cavale sans issue avec mon père. Cavale sans issue. Et une scène où Jean-Claude Van Damme, il commence avec Rosanna Arquette.
Et donc là, t'es avec ton père à côté.
Et lui enlève le haut et tout. Bah moi j'avais genre franchement quand elle sont issue j'étais petit hein. J'avais à peine 10 ans je pense. Et mon père il m'a mis sa grosse peluche sur la gueule. Et il y avait un truc où t'es là bon bah je regarde pas. Et oui c'était un peu gênant en effet. Oui.
Et c'est toujours relou ces moments là.
C'est toujours un peu relou.
Moi je me souviens il y avait une série qui s'appelait Hollywood Night.
Bien sûr.
Sur TF1. Et c'était toujours un peu de cul, c'était toujours un peu érotique, quoi, tu vois.
Mais il y en avait beaucoup plus à des heures de grande écoute, en fait, du cul.
Bah, sur M6, déjà, le vendredi soir, c'est fini, ça, sur M6.
Du dimanche soir, pardon.
Moi, le matin, au petit.
Ah oui, c'était le dimanche soir.
Le dimanche soir, il y avait le film et le samedi soir. Bon, et après, je m'y connais au vite fait. Ouais. C'est parce que j'ai enregistré des cassettes. Il y avait, Sexy Zap.
Oh, Sexy Zap.
C'est quoi ça, Sexy Zap?
C'était un truc débile. Parodie de télé en érotique.
Oh là là là.
Il en faut peu quand t'as 14 ans.
Catastrophique.
Il en faut peu.
On est la génération La Redoute et les Trois Suisses.
Oui, c'est vrai, mais tu dis, il y avait.
Ça veut dire quoi, génération La Redoute, Guillaume?
Si vous avez vu les beaux gosses de Riyad Sattouf, ils en parlent un moment. Voilà.
Ah, yeah. Oui, parce que savoir qu'on vient quand même d'une génération où il n'y avait pas Internet.
Il n'y avait rien.
Voilà.
Il n'y avait rien.
Mais ça faisait de nous des êtres très imaginatifs.
Des warriors.
Ouais. C'est créatif.
Nous, on était des warriors. Suffisait de fermer les yeux. Qui sait faire ça maintenant? Personne.
J'ai fait un truc un jour qui était assez incroyable. C'est que, oui, effectivement, Guillaume, il n'y avait pas de support avant. C'est-à-dire que si t'as pas de film, il n'y a que ton imagination.
Ah, c'est ça. Il fallait voler un magazine et tout. C'était horrible.
Et mon grand-père, il avait une carte postale chez lui qui venait de Tunisie. Une carte postale qui venait de Tunisie où il y avait une Tunisienne les seins nus. Sur la. Et derrière.
En plus, je connais cette histoire. Non, je connais trop.
C'est vrai. Non, et derrière, il y avait un texte genre. Bon, les vacances sont super, signé Monique. Puis bon, voilà quoi.
Ça a été son petit support.
Ouais. Oh là là.
C'est triste, hein.
Ah là, bah ouais, non, mais oui, mais tu disais. Tiens,
l'imagination.
Qu'est-ce qui va se passer quand je vais être grand? Comment? Quoi? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai pas de sexualité.
Très bien.
Non.
Lui, il avait le facteur campagne, en plus.
J'ai des trucs comme ça. Non, mais campagne, ouais.
Facteur campagne,
franchement, facteur campagne. Il n'y avait pas M6, mon gars.
On n'avait pas M6. M6, quand c'était un peu clair, t'étais content. Alors que M6, c'était censé être clair. M6, c'était bousillé, je me rappelle. J'en ai reparlé avec des potes campagnards qui me disaient, bah ouais, si on n'avait pas M6. M6, c'était radio, enfin, c'était une télé pirate, quoi. C'était. C'est l'état de Canal+, quoi. Canal+, en clair, impossible. Et on matait sa cartoon. Et genre, je riais sur.
C'est pas un bon support, que ça cartoon.
Trois vannes sur sept. Non, mais c'est pas un bon support. Mais je veux dire, même sa cartoon, j'avais du mal à le voir. Donc, tout ce qui était, personne dénudée, érotique, c'était tendu. Fallait aller à la messe, aller au secours, excusez-moi.
Pardon. Écoutez, on va enchaîner, j'arrête là.
On a dévié de Mickey Rourke à Sexy Zap.
Pourquoi pas, quand on connaît 9 semaines et demie, ça fait partie
du
film.
Ça peut, c'est le personnage.
Tu couperas ça.
C'est la question coquine.
On va jouer un petit jeu.
Oui.
En référence avec le catch. Parce que finalement, dans ce film, dans The Wrestler, ça unit quand même le catch et le cinéma. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter des profils de catcheurs qui sont devenus acteurs. Chut, ne commencez pas à répondre.
Bah, les catcheurs deux, qui sont devenus acteurs. Noms. C'est bon, j'en ai que deux.
Faut trouver. Par contre, on a le droit à une réponse. Parce que là, ça va fuser dans tous les sens, je vous connais. Okay, ouais. Ça balance tout et n'importe quoi jusqu'à trouver The Rock.
The Rock.
Allez, The Rock n'y est pas, je vous le dis tout de suite.
Attends.
The Rock n'y est pas. Ok. On commence avec le premier. Parce que, mine de rien.
Attends, il faut que je me fasse un
brainstorming de tous les catcheurs. Non, mais
attends,
il
faut
que je triche. Selon Guillaume, c'est de la triche.
J'ai une tête connue, j'ai pas le nom.
Selon Guillaume, c'est de la triche. Je triche.
Ok. Excusez-moi.
Mine de rien, je parle à la première personne comme si j'étais catcheur.
Ah.
Mine de rien, je suis celui qui présente la carrière cinématographique la plus intéressante de tous les catcheurs. D'ailleurs, mon tout premier film dans lequel je joue en 2009, c'est Werner Herzog qui le réalise. Incroyable.
Ah.
Par la suite, j'ai tourné avec Sam Mendes, James Gunn ou encore Denis Villeneuve.
Ah, je sais.
Je suis.
Batista.
Oh, joli.
Ah, bien joué. Villeneuve, okay, mec,
c'est Dave Bautista qui joue dans pas mal de films de Villeneuve parce qu'il a joué dans Dune, le dernier.
Ouais.
Il avait aussi joué dans Blade Runner 2049.
Et je trouve
qu'il a, il est assez intense, quand même.
Ouais, en fait, il a une gueule à faire des films de science-fiction. Même dans Les Gardiens et
bon,
tout,
hein.
De James Gunn. Ouais. Il est bien, ouais.
Il est vraiment bon. Ok, deuxième catcheur. C'est bon, t'en as réuni plusieurs, Vincent.
Non, mais j'avais oublié Batista, c'est vrai que je l'ai eu qu'à Villeneuve et je repars trouver son nom. J'avais juste la tête. Bien joué.
Je suis un catcheur ayant joué dans bon nombre de navets.
Ah.
Mais au milieu de ces navets, un film culte sorti en 82, puis un autre en 90. À chaque fois, ce sont des petites apparitions.
Hulk Hogan, désolé.
Oh, Hulk Hogan!
Je préférais.
Il l'a dit avant, Hulk Hogan!
90, je me suis dit, c'est bon, c'est le 2 des
Gris. Il l'a dit avant!
Désolé.
C'est classique.
À chaque fois, ce sont des petites apparitions. Les classiques, en 82, c'est.
Rocky 3 et
Gremlins 2.
Ouais,
à chaque fois, ce sont des petites apparitions. À côté de ça, j'ai joué dans plusieurs séries. Alerte à Malibu, Walker Texas Rangers,
Caraïbes Offshore,
Agence Tout Risque, Caraïbes Offshore et La Croisière s'amuse. Ouais. Immense star du catch, peut-être la plus grande, je suis Hulk Hogan. Bravo.
Je suis énervé. Bon, bah, par contre, heureusement que j'ai triché avant en me faisant, attends, faut que je passe un débrief. J'avais juste un mec avec une moustache blonde et je faisais, mec, c'est quoi son nom? Tout à l'heure.
Je suis encore plus excédé par ta réponse.
Excuse-moi. Un partout, Vincent Aurélien, Guillaume Zéro, Guillaume
Merci,
qui
allez, Guillaume Zéro.
J'ai dit ma triche à voix haute.
Je suis un catcheur, encore une fois, hyper connu. Oh. J'ai joué dans des séries comme L'homme qui valait 3 milliards ou encore Zorro. Mais c'est dans deux films que l'on retient mon nom. D'abord un film avec Schwarzy, sorti en 84. Puis ensuite dans un film de Rob Reiner datant de 87.
Ah,
catcheur français, je suis un véritable buffle.
André the Giant.
André le géant.
André le géant. J'étais pas sûr que je reparte.
Moi c'est André.
J'étais pas sûr qu'il ait vraiment joué dans des films, bordel.
Ah ouais.
Si, André le Princess
Bride. Alors, André le géant,
ah,
qui
est une masse. Bride. Voilà.
Je suis allé voir la mensuration d'André le géant. À votre avis, il mesure combien? Il pèse combien?
Moi j'avais deux
mètres. Celui qui s'en rapproche à un point. Celui qui s'en rapproche à un point.
2 mètres 12.
2 mètres 12 et combien de kilos?
Beaucoup 120 124.
OK Vincent. Moi, André le géant.
Je suis un peu bâtard, allez un petit 130 kilos. Ouais. J'en sais rien.
Et la mesure
2 mètres 10.
OK Aurélien.
Moi je dirais 2 mètres 18 et 220 kilos.
Oh, c'est Aurélien qui marque encore un point là. Il fait coup double. 2 mètres 24.
Oh,
245 kilos.
Ouais.
245.
Dis 250.
Je sens bien. J'ai lu sa bio. Ouais, j'adore André the Giant. J'ai lu sa bio et
il galérait dans mon dos.
Non, mais il galérait vraiment à avoir des places parce qu'à l'époque, en plus, les gens comme ça, c'est impossible, tu vois. Oh. Et vu qu'il passait partout aux États-Unis, prenait l'avion et tout, c'était galère pour lui. À la fin, il avait des problèmes de genoux. Il se baladait dans le pays en bus, uniquement en bus.
J'étais vraiment sympa parce que je lui ai donné 120 kilos et si on, enfin, je vais pas donner nos poids ici. Mais on est pas si loin finalement.
Alors, juste au niveau du score, Aurélien, ça fait 3-1.
Oui,
0.
On a compris.
Sauf que comme là, il a mis un double, on va faire un truc entre vous deux pour un peu remettre un peu le truc. Où est-ce qu'est né André le Géant? Et l'indice, c'est un fromage.
Cantal. Camembert.
Non. C'est un fromage.
Livaro.
Non. Il n'est pas né dans le Livaro. André le Géant, où est-ce qu'il est né? C'est un fromage fondant qui coule.
C'est le nom du fromage
qui pue un peu.
Camembert, Maroilles.
Beaufort.
Non. C'est un point, attention. Un point fromage.
Pour l'évêque. Le fond d'Ambert.
Non.
Pour l'évêque.
Ça commence par la lettre C.
Le Cantal, je l'ai dit.
Non, c'est pas ça.
Je vais redire Camembert aussi au cas où.
Du Crouillère. Non, c'est pas ça. La deuxième lettre est un O.
Mais bordel, on est mauvais. Ah si, tiens, je me
prends. Comptez. Non, c'est non.
Pensez Camembert, bordel.
Je vais prendre une bonne tranche de.
La troisième lettre.
Colomier.
Oh, c'est Colomier.
Désolé. Autant j'ai une culture pourrie, autant j'adore bouffer.
Bien, c'est un point pour Vincent. Ça fait donc 3-2-0.
Je me fais défoncer sur le catch et les fromages, j'ai la.
Et ses parents étaient pas grands.
3-2-0.
Ah bah attends, mec, deux indices, il était un coulot.
C'est un coulom. Ok, autre catcheur, énorme star. Guillaume Zéro, attention, c'est maintenant.
Merci, bon, allez.
J'ai joué dans plusieurs films, et ça va, je me défends, c'est ça que j'avais écrit. Et ça va, je me défends. J'ai tourné avec plusieurs metteurs en scène de renom, comme Rennie Harlin, Judd Apatow ou encore James Gunn. Idole de toute une génération américaine, je porte le jean pantacourt à merveille. Je suis.
John Cena.
Oh, John Cena.
Non, John Cena, je l'ai dit, putain.
Non, c'est Aurélien avant, je suis désolé. Ah, c'est Aurélien avant.
Bah, allez,
il peut prendre.
C'est John Cena, bah oui.
Je sais pas, moi.
Ah, okay, non, j'étais à côté, non.
Oui, c'est pour ça que t'étais à côté. J'étais à côté, j'ai entendu avant. Bah oui, bah c'est
ils sont arrivés plus vite.
Il fait très chaud ici, j'ai envie d'enlever mon fut.
Allez.
J'ai pas l'enlever par respect, mais j'ai très envie de
l'enlever. Mec, en retirant un bout.
C'est John Cena, effectivement, ça fait 4.
C'est un pantacourt à la Cena.
Ça fait 4-2-0, bon, ce qui fait que le dernier, c'est qui tout double.
Qui tout double.
C'est-à-dire que celui qui le trouve là est le grand champion.
Ouais.
Je préfère vous le dire.
Ah, c'est The Rock, de toute façon.
Catcher ayant percé à fond dans le monde du cinéma, à tel point que désormais, on pense à lui plus comme un acteur que comme un catcher.
The Rock.
C'est non. Mais t'es encore dans le jeu parce que tu me fais un peu de la peine.
C'est lui qui a gagné.
J'ai tourné avec les plus grands interprètes, avec bon nombre de grands réalisateurs. J'ai un nom à consonance italiano.
Lino Ventura.
Oh, c'est là, il a gagné. Oh, la l'arnaque. Oh, quelle arnaque. Oh là là là, c'est lui qui l'emporte. Tu vois, qui touche
Lino Ventura. Bravo, putain.
Il avait zéro point et c'est lui qui gagne quiz.
C'était lutteur, évidemment.
C'est Lino Ventura.
Je m'étais dit,
je suis une vraie force de la nature, imposante et charismatique. Je joue avec Delong, Gabin et tant d'autres. Je suis Lino Ventura.
Vous êtes là avec votre John Cena et tout. Bon, allez, la culture est ici.
J'ai sorti Hulk Hogan tout seul, c'est tout, je crois. Vraiment, c'était
Hulk Hogan et Coulomier, excuse-moi.
Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça t'a fait de gagner là? T'avais zéro, hein.
Oui, c'est vrai, j'avais zéro, mais j'attendais Lino Ventura, en fait. C'est juste pour ça.
Encore une fois, le kit double te sauve.
Est-ce que vous décidez de rester et de remporter les 50 000 balles ou de tout rejouer pour partir avec un dico
la semaine prochaine.
Alors, il y en avait d'autres. J'ai fait exprès de ne pas citer The Rock, bien évidemment.
The Rock.
La pirade.
C'était piège, mais j'aurais pu également citer.
J'y avais jamais pensé, je suis con. Pourquoi j'ai pas pensé avant?
La pirade.
Il y a d'autres acteurs devenus catcheurs, figurez-vous.
Il y a, je l'avais noté ici, il y a Steve Austin dans Expendables.
Bah, ouais, bien sûr.
Il y a aussi Roddy Piper, qui joue dans Invasion Los Angeles de John Carpenter.
Ah,
ou encore Meilleur Jesse bagarre. Ventura dans Predator et plein d'autres. Voilà, donc les catcheurs devenus acteurs. C'est ouais. Finalement, il y a un peu de jeu, finalement, chez les
Bah oui.
Chez les catcheurs.
C'est 80% ouais, bah, que ça, de jeu.
Ouais, j'aurais dû prendre le thème mystère.
Plus des cascades.
Alors, est-ce que vous consommiez du catch quand vous étiez ado et enfant, Vincent?
Non, le souvenir, c'est un pote qui avait Canal+, dans une autre campagne.
Ça marche, c'est quoi le nom de la campagne?
C'était dans la Nièvre, dans le Morvan, Nièvre. Ouais. Okay. Vers Moulin Gilbert, etc. Okay. Et pourtant, c'est paumé et tout, mais lui, il avait Canal et tout, machin. Et on regardait ça, il était fan, il avait 2-3 figurines. Et moi, comme ma sœur trouvait ça nul, ma plus grande sœur, et elle me disait, vas-y, c'est nul. Et je me disais, non, grave, c'est nul. Les mecs, ils ont rien à foutre en slip à se battre, ils font semblant. Mais en fait, je kiffais les persos, quoi. Je regardais, enfin, j'en détestais, mais en un instant, je me disais, il est hideux, j'ai envie qu'il crève. Et puis, il y avait le héros qui était bien sapé et tout, machin. Je faisais, bon, bah, allez, ouais. Il déboîte tout, puis il gagnait. Je faisais, c'est génial, ça. Et c'était à la même époque où je regardais, par contre, Tyson frapper des mecs pour de vrai. Et je faisais, je préfère lui, là. Il a l'air de faire ça très bien. Et donc, voilà.
Il y a quelques années, j'ai offert le ring WWF pour l'anniversaire de Guillaume.
Exactement. Ah. Parce que je l'avais quand j'étais petit.
Oh.
Qui avait été très bien conservé. J'avais gardé la petite, j'avais mis tous les bons autocollants.
Et il y a plein de bonhommes.
Dans la petite télé des arbitres, il y avait Hulk Hogan qui déchire son t-shirt.
Ah.
Et effectivement, je regardais ça, ça passait sur Canal+ à l'époque en clair. Et ça passait, je pense, le samedi, puisqu'après, il y avait sa cartoon, je crois. En fait, c'était un truc, en fait, pour moi, c'était un truc jeunesse, en fait, tu vois.
Oui, parce que, ouais, c'est vrai.
Alors que c'était considéré comme ça, un peu. Mmh. C'était pas vraiment un sport. Et je crois que j'étais à l'âge où j'avais pas encore capté que c'était pas des vrais coups. Du coup, j'étais là, bouah! J'étais petit, tu vois.
Ça fait quand même un peu mal, parce que parfois, on voit les pauses.
Ouais, des fois, Rourke disait que c'était le truc le plus violent qu'il ait vécu. Ah ouais, et du coup, après, il s'est retrouvé. Rourke a tapé des gars au catch. Ouais. Je sais pas que la fin de ma phrase. Et non, mais donc il disait que c'était le truc le plus violent et il se foutait un peu de leur gueule. Et aux entraînements et tout, il a fait physique, ok, d'accord, je prends la douille. Il s'est dit, je vais dégager de la boxe, tout, vous frappez pas vraiment. Il avait pas de respect des masses. Et il s'est mis à respecter à fond le truc, mais même au point de dire, pour faire la promo, de dire, je vais aller me taper avec des gars.
Je me suis fait la réflexion récemment que c'était un peu aussi c'était le mélange qui existe plus, en fait, de sport et télé-réalité. Parce qu'en fait, ils faisaient tout le temps des histoires dans les vestiaires de machin qui a piqué la meuf, de machin qui va taper machin, etc., etc.
Créer des scénars.
C'était toute une série autour d'un sport qui était fou.
Faire un livre.
Mais pour moi, c'est la meilleure époque.
Parfois, il y a des trucs qui restent. Je me souviens quand j'étais ado, on avait regardé un match de catch justement sur Canal avec mon pote Mehdi. Et en fait, il y avait un catcheur qui avait défoncé un gars. Et en plus de le défoncer, il lui avait remis un sale coup derrière. Et t'avais le commentateur, ils étaient toujours très, les commentateurs, ils avaient leur voix comme ça, ils faisaient le show. Il y avait un des commentateurs, quand il lui a foutu ce coup bas, qui avait dit, c'était pas nécessaire! Il avait dit ça. Et du coup, ils vont pas, à chaque fois qu'on voit un truc pas sympa, à chaque fois on se dit ça, tu vois. Franchement, ça va faire 20 ans qu'on se dit ça.
Ah, c'est génial.
Quand on observe un truc pas sympa, à chaque fois on se dit, c'était pas nécessaire!
On a l'impression d'être à côté de vous, avec vos pitchs.
Et donc, c'était
pas. Manger des pitchs.
Et donc, c'est resté, voilà. Mais c'est vrai que moi, c'est un truc que je consommais et c'était vraiment du grand spectacle, quoi. Je me souviens même que j'avais des jeux sur Game Boy, sur Super Nintendo de catch et tout. C'était vraiment un grand spectacle où, comme tu disais, il y avait une sorte de mise en scène où... Et puis moi aussi, je croyais que c'était vrai, tu sais, quand on les voyait comme ça et qu'ils étaient vénères en interview juste avant et qu'ils disaient qu'il allait briser le gars, pour moi, il était vraiment sincère quand il parlait, quoi.
Surtout, quel autre sport est devenu des figurines de jouets?
Le foot.
Le hand. Non, mais c'est pas ça.
C'était pas des figurines comme les G.I. Joe, etc., tu vois.
Si, en foot, il y avait des figurines, je crois que c'était...
Mais vite fait.
C'était Subuteo, quoi.
Moi, j'avais Maradona, honnêtement. Mais c'était, tu pouvais rien faire.
Oui, voilà, c'est
non, mais c'était pas des trucs de jeu.
En fait, il a le ballon, mais il est prostré, en fait.
Ah oui, exactement.
J'avais les mêmes figurines,
Diego Maradona! Moi, je suis fan que des mecs, vraiment. Ils ont le pif rincé. Okay. Maradona.
Mikero.
Je vous ai parlé de Tyson.
Pose-toi les bonnes questions.
Bah, c'est marrant parce que j'ai lu, enfin non, c'est pas du tout marrant en vrai, mais j'ai lu un interview ce matin de Francis Weber, le réalisateur, qui disait que pour un film, il avait engagé Brasseur.
Ah.
Et tout le monde lui avait déconseillé d'engager Brasseur parce qu'apparemment, c'était un méga cocaïnomane. Et Patrick Sébastien l'avait appelé pour lui dire, fais attention à lui, parce que quand il éternue, t'as les chaussures toutes blanches après.
Voilà. Il y a cette vanne dans
petite formule de Sébastien.
Non, mais il y a une super vanne comme ça dans Very Bad Cops où il s'arrête avec sa bagnole et je sais plus d'ailleurs s'il déglingue de la coke ou autre chose. C'est de la coke, je crois. Il y a Will Ferrell, il y en a un qui fait, tu feras gaffe, il y a Tony Montana qui a éternué sur ta bagnole. La réplique m'a flingué.
Ils l'ont pris à Patrick Sébastien.
Mais oui, ils l'ont pris. Il était vraiment conseillé.
Alors, Guillaume, on parlait de tous ces catcheurs. Replongeons-nous dans la grande époque du catch des années 90. Oscar. Avant, c'était vraiment plus déluré qu'aujourd'hui. Et chaque catcheur avait un personnage bien défini avec des skills particuliers.
Exactement. Et on entame cette liste avec Mick Foley. Si vous vous en souvenez, catcheur qui a eu une longue carrière au sein de plusieurs fédérations et considéré comme l'un des plus grands catcheurs hardcore. Le catch hardcore étant ce qu'on voit dans le film, évidemment, The Wrestler, où on se sert de barbelés, de ferrailles, etc. pour blesser l'adversaire. Il a joué plusieurs personnages dans sa carrière de lutteur et toujours plutôt des méchants, comme Dude Love, un hippie bagarreur, Cactus Jack, un hors-la-loi, et surtout Mankind, le tueur psychopathe, grand ennemi de l'Undertaker, qui vit dans la salle des machines, alors on sait pas où c'est la salle des machines, mais il y a de la fumée et des tuyaux, avec un masque de cuir, et son ami imaginaire, Mister Soko. Mais qui est Mister Soko?
La chanteuse.
Une chaussette.
Non, oui. C'est vrai,
une chaussette qu'il sort régulièrement pour son coup final, le Mandible Claw. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec sa chaussette? Eh bien, il la met sur son poing et il la fourre dans la bouche de ses adversaires pour les étouffer. Tout simplement.
Bonne technique.
Bien relou comme ambiance. On n'y pense pas assez dans les bagarres d'enlever sa chaussette pour la mettre dans la bouche de l'autre. Et c'est super efficace. On enchaîne avec...
Le souillon.
Ouais, le souillon. On enchaîne avec Ted DiBiase, que j'arrive jamais à dire. J'ai nommé Million Dollar Man, qui a surtout brillé dans les années WWF, où il campait un milliardaire toujours accompagné de son valet, Virgil. Il a d'abord proposé à Hulk Hogan d'acheter sa ceinture de champion. Celui-ci refusa. Et ensuite, le défia sur le ring. Défaite pour Million Dollar Man, qui, frustré de ne pas avoir sa ceinture, crée alors sa propre ceinture, la Million Dollar Belt, et son propre tournoi, le Million Dollar World Wrestling, mais tout le monde s'en foutait. Dans ses apparitions, il jette des dollars dans la foule, et j'ai vu une vidéo aujourd'hui qui m'a choqué, parce que je me dis, mais en fait, c'est vrai. Donc en fait, il a fait croire à un petit du public qu'il allait lui donner 500 dollars s'il faisait 40 rebonds de ballon de basket. Il en fait 38 et au 38e, Million Dollar Man, il shoot dans le ballon, il fait « bah chier t'auras rien du tout ». Et du coup, le petit se met à pleurer, il va dans les jupes de sa mère et tout, mais on dirait un vrai petit.
J'ai envie de voir cette vidéo.
Mais c'est horrible.
Et donc, il avait un valet. Ça devait être pas mal d'avoir un valet.
Il avait un valet et en fait, il faisait toutes ses vidéos de promo, etc. Dont j'en ai vu une aujourd'hui où il avait une vidéo où il arrive dans une piscine publique, il y a plein de petits qui s'amusent dans l'eau et il fait public pool, nah. Genre, il va donner de la thune au mec de la piscine et tout le monde doit sortir de la piscine et il y a juste lui au milieu. Il se met dans la piscine tout seul. Donc vous l'aurez compris, c'est un grand lutteur, mais il joue une ordure jusqu'à sa signature de combat, car lorsqu'il bat ses adversaires, il leur glisse toujours un dollar au fond de la gorge. Car ça en revanche, je n'aimerais pas à l'esprit de le faire dans une baston en boîte. Tiens, voilà, 10 euros, bâtard. Autre technique à laquelle on pense peu quand on se bat. En vrai, on se bat jamais. Qui se bat ici? Personne.
Moi un peu.
Toi, tu te bats, toi? Ah, tu te bats, peut-être.
Oh,
toi,
ouais, toi. On se bat, pardon.
Non.
Les petites castagnes.
Non. Il n'y a pas eu Rix depuis 2015.
Il y a eu Martin Rix.
Un écart une fois pour.
Martin Rix.
Ouais, non, rien du tout.
Et donc, autre technique à laquelle on ne pense pas, et on la doit à Rikishi, de son premier nom, alors attention, Solofa Fatu Junior, qui a tout de même le titre de champion du monde par équipe de la WWF, avec son cousin, la Samoan Fat Team, si vous vous souvenez de ça.
Ah ouais.
Il incarne le rôle d'un sumo danseur avec une façon bien particulière d'humilier ses ennemis. À votre avis, laquelle?
Ils écrasent. Il met son cul sur la tête, non?
Ouais.
Il leur fait un sting face qui consiste tout bonnement à les étouffer avec son cul. Bien joué, ça.
J'avais un pote qui faisait ça.
On pourra aussi parler de son frère Eddie, plus connu sous le nom de Umaga, catcheur émérite lui aussi, avec un signature move tout droit inspiré de Fedodo de Mimisiku, puisqu'il endort les gens avec son pouce dans le cou.
Ah, c'est bon ça.
C'est vraiment très bien joué, ça joue très bien la comédie.
Lolo.
Un autre catcheur plus récent avec une signature très ridicule, j'ai nommé Santino Marella, catcheur canadien de la WWE, et sa fameuse prise du Cobra. Et là, c'est très triste, je vous invite à regarder les vidéos. Il se met à crier « Cobra ! Cobra ! » comme si son bras était possédé. Il met une chaussette, encore une, à l'effigie d'un cobra sur son avant-bras. Et il assène un coup dans le cou à son adversaire avec la main en forme de serpent comme s'il faisait des ombres chinoises. Il fait juste comme ça. Je sais pas si vous voyez, adversaire qui tombe évidemment immédiatement sous le coup du fameux cobra. On enchaîne avec TL Hopper, aka The Wrestling Plumber, catcheur de la WWF, qui venait donc déguisé en plombier avec sa ventouse, donc vous vous doutez du coup spécial qui en découle, il ventousait le visage de ses adversaires. On pourra aussi parler de Mike Shaw, qui est officier à la WCW et la WWF, changeant 15 fois de personnage et de nom, dont Friar Ferguson, le curé fou qui étouffait ses adversaires sous sa robe. Arrêté au bout d'un seul match après une plainte de l'église. Ou encore Bastion Booger, un ogre avec une hygiène déplorable qui avait pour coup final de s'asseoir sur le visage de ses adversaires. Encore une prise bien nommée puisqu'il l'appelait Trip to the Bat Cave.
Non, mais. Poète.
Et genre, il était dégueu, il y avait des vidéos où il mange comme un porc et tout, et après, quand il approche sur le ring, les gens, ils sont là, ah, il pue et tout, machin. Bon, c'était son rôle.
Après, on se demande pourquoi vraiment on se dit, bah, ça a une mauvaise image quand même, le catch.
C'était aussi Brian Knobs des Nasty Boys, dont la prise appelée le pit stop consistait à frotter son aisselle sur le visage de son adversaire. Et mention spéciale aussi
que
à...
Des trucs crades.
Ouais, que des trucs crades. Mention spéciale aussi à Papa Chango, aka Charles White, un prêtre vaudou avec une canne à tête de mort, capable d'infliger des blessures en jetant des sorts. Eh ouais. Ah. Contrôler les lumières de la salle ou même faire vomir The Ultimate Warrior pendant un match sans le toucher. Très impressionnant.
Ah ouais.
Les crasse-pouilles.
Les crasse-pouilles. Alors, que des personnages ont en couleur. Et justement, je vous propose un petit quiz.
Ah, ah merci, Guillaume.
Je vais vous décrire des catcheurs et vous avez qu'à me dire s'ils existent ou pas.
Ok. Ah, c'est pas mal, ça.
Un agent de la gendarmerie royale canadienne armé de son taser.
Il existe.
Je me rappelle de lui.
Ah. Je l'avais en figurine. Avec son costume rouge.
C'est canadien, ça.
Exactement. Comment s'appelle-t-il?
Un vrai vieux.
J'ai oublié, mais je l'avais.
Vanger
Il s'appelle The Mounty. Ah, voilà. Et son nom à la ville, c'est Jacques Rougeau.
Comment il va?
Qu'est-ce qu'il devient?
C'est toujours accompagné de son shock stick. Et il y a une vidéo sur YouTube de lui avec Bret Hart qui s'embrouille. Et en gros, le manager de The Mounty, il envoie de l'eau sur Bret Hart. Et l'autre, il arrive avec son shock stick comme ça. Il est électrocuté. Bon, finalement, il meurt pas, mais bon. Bien joué, il existe, The Mounty. Deuxième catcher, un croque-mitaine vaudou qui avalait des vers vivants pour effrayer ses adversaires.
Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas, je crois.
Le premier existe, donc le deuxième n'existe pas.
Je dirais non pour que tu nous commences à nous mettre en branle, mais je sais pas. Ok, d'accord.
La réponse est oui.
Il a fait la technique des deux premières réponses bonnes.
C'est The Boogeyman. C'est The Boogeyman qui mettait des vers vivants et il en bouffait. Et en gros,
donc la troisième va être bonne parce que sinon c'est grillé que c'est non.
Figurez-vous, j'ai cherché dans la liste des catch. Il y a une liste qui existe des catcheurs qui ont la plus mauvaise hygiène. Et il est dedans, Boogeyman, parce qu'il pue de la gueule à force de bouffer des verres.
T'as trouvé une liste des catcheurs les plus dégueux?
Ouais.
C'est génial, il y a un mec qui s'est dit, attends, non, lui, il est peut-être plus dégueu que l'autre.
En fait, il a fait l'inverse, il a essayé de trier les mecs un peu propres. Il en restait trois.
Donc le troisième catcheur, un catcheur déguisé en super-héros et qu'on appelle la merde.
Il existe.
C'est sûr qu'il existe.
Il existe.
Tu l'as trop bien pitché.
Son nom était Rosie the Shit. En anglais, super-héros in training. C'était
Tu sais très bien que tu vas pas aller au bout de ta carrière avec ça. Quand est-ce qu'ils créent les persos qu'ils vont
Ça n'a pas marché. En plus, son déguisement était terrible. Ça a fait genre 2-3 matchs. Ils ont fait, bon, allez, laisse tomber lui.
The Shit, non, c'est vous, non? Mais ouais, c'est moi. La merde.
Attention. Un catcheur reprenant les codes de Conan le Barbare et appelé Bogdan the Barbarian.
Il n'existe pas. Parce que c'est là. Tu peux faire 4 bonnes réponses d'un coup, quoi.
Ah, c'est possible.
Ah, monsieur, ouais, c'est possible.
C'est Bogdan.
Je veux dire oui, vas-y, go, non. Go.
Non, Bogdan. Ouais,
oui, validé.
Il existe
oui,
pas.
Pour Bogdan. Non,
il existe
Bogdan,
pas.
Bogdan.
Bah, Vincent est nul en catch, il n'existe pas.
Ah merde.
Il a craqué.
Je suis mauvais.
C'est la règle des 3 bonnes réponses pour lui.
Ouais, mais le prochain, ça se trouve.
C'est juste Bogdan.
Écoutez-moi ce scénario que j'ai peut-être inventé. Un prisonnier abusé par un garde lorsqu'il était au trou, revenu pour se venger de lui. Parce que le garde n'est autre qu'un autre catcheur de la WWE.
J'ai envie de dire oui, parce que ça me plaît, cette histoire.
Je m'en rappelle de ça.
Ouais, faut qu'elle existe.
Ça me dit un truc.
C'est un peu le film Slippers.
Il est venu pendant pas longtemps. Il est venu pendant pas longtemps. Il s'appelait Nails avec un Z à la fin. Et il est venu se venger de Big Boss Man. Il était habillé en
tolard, quoi.
En tolard, ouais.
En orange. Il aurait pu changer entre temps. Il est sorti, quoi.
On dirait des gros trucs de série, là, ouais.
Attention à vous. Un catcheur magicien dont le super pouvoir est de faire disparaître les slips de ses adversaires.
Non, c'est faux.
Ah non, mais non, c'est
pour les enfants. C'est une facétie inventée par Guillaume.
Mais c'est vrai. C'est Fantasio. Il a fait un seul match.
Fantasio.
Phantasio. Il a fait un seul match et il a fait la seule apparition le 16 juillet 1995. Vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube. Il arrive sans musique. Il a un visage peint en noir et blanc, comme un black metalleux un peu, et il fait que des tours de magie. Dans un tour de magie où en fait il pique le slip de son adversaire, il le tourne et après l'autre il est tout étourdi, il fait mais il est où mon slip? Et du coup
des gamins de 7 ans
il le plaque,
mais il a pas
et après non mais en gros il a une combi, tu vois. Genre il est là, hop il fait
regarder
c'est son slip, et genre son slip c'est un slip, un gros slip avec des cœurs et tout. Et il fait pareil à l'arbitre, figurez-vous. Il lui pique dans son pantalon. Fantasio, il a fait qu'un seul match, ils ont dit bon, non, laisse tomber Fantasio, on va arrêter ça.
Plus de taille,
on veut tous voir un match entre Fantasio et la merde.
Il a piqué le slip à la merde.
Et alors, un fauconnier déguisé en oiseau qui arrive sur le ring avec 2 faucons au bras est tout simplement nommé Magic Falcon.
C'est faux.
Puis du fou. Non, je n'ai aucune idée. C'est vrai, vas-y, go.
Magic Falcon, il n'y croit pas. Et pourtant, c'est faux. Bien joué.
Ok, bien joué.
Et alors, un méchant Père Noël venu du pôle Sud qui vole les jouets des enfants.
C'est faux.
Ouais, ça, c'est peut-être vrai, ça. En mode Père Fouettard, là.
D'habitude, j'arrive à deviner, t'es un peu, en me disant, bah là, j'arrive pas, mon gars, je suis paumé. Faux, vrai, faux.
Faux? Et la réponse, oh, c'est
que
c'est vrai. Okay. C'est vrai, il s'appelait Santa Claus. Ah. Il était habillé en rouge et noir et ça a duré juste la période de Noël. Ils ont fait brûler. On va faire un Père Noël méchant et tout.
Top, ouais.
Et le dernier, un Spider-Man jaune et violet appelé Arachnaman.
Ça, c'est vrai, je crois.
C'est vrai.
Et c'est vrai.
Je dis pareil.
C'est vrai. Et Marvel, ils ont dit, bah non, faut pas... non, non, enfin, c'est pas possible. Ils ont fait, ah, ok, pardon, excusez-nous.
Il y a vraiment,
on va en inventer un autre.
Ouais, excusez-nous, monsieur.
Iron Boy, ça passe, allez.
Il y a plein de mammifères, plein d'insectes, vous allez piocher, vous faites votre tambouille. Merci bien.
Prenez Magic Falcon, il n'avait pas pris, lui, celui-là.
Magic Falcon, personne n'en veut.
Avec ses deux hiboux, là.
Eh bien, merci bien. Bravo, vous avez déjoué tous les pièges.
Bah, merci, t'es très fort.
Vincent, est-ce que tu te définis comme un homme friand d'anecdotes?
Comme une friandise. Oui, j'adore ça, j'adore les tabs.
Tu t'en régales les anecdotes?
Je m'en régale.
Mais j'en ai plein pour toi. Là.
Oh,
j'en ai plein pour
attends,
toi.
Attends, est-ce qu'elle croustille?
Merci.
Ah, bien sûr.
Ah, oui,
c'est un peu. On sait que dans cette émission, les anecdotes croustillent.
Vous mettez bien.
Alors, ce film est un film à petit budget, mais l'anecdote s'arrête pas là, sinon elle serait pas croustillante.
Ah, merci.
Film qui a tellement plu à Axl Rose, le leader des Guns N' Roses, qu'il décida de céder gratuitement les droits d'utilisation d'un de ses sons dans le film. De la même manière, Bruce Springsteen a interprété la fameuse chanson de fin gratuitement, et l'histoire, elle est assez folle. En fait, à la base, Mickey Rourke, c'est un pote de Bruce Springsteen.
C'est un pote à tout le monde.
Et il lui dit, voilà, ouais, je fais ce film, The Wrestler, etc. J'aimerais trop que tu fasses la chanson parce que j'adore Streets of Philadelphia et tout. Il fait, ok, j'ai réfléchi. Donc, il lui donne un peu le pitch du film et tout. Et quelques mois plus tard, il va le voir dans un concert. Donc, à un concert, il va dans la loge. Et Bruce Springsteen lui dit, écoute, j'ai réfléchi à ta chanson, je vais te la jouer, la guitare-voix, comme ça. Et il lui joue la chanson du film. Mickey Rourke trouve ça trop bien. Il appelle Aronofsky, il lui fait jouer au téléphone et tout. Et Springsteen a dit, bah, je vous la file gratos. Genre, je ne demande pas de thune et tout, prenez-la. Et la chanson est super.
Ouais.
Ça, c'est vraiment quand t'es blindé comme Springsteen, tu peux faire ça. Et si c'est un jeune auteur, il fait, ouais, j'aime plutôt la plus rapide quand même.
D'ailleurs, la chanson des Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, Sweet Child O' Mine.
Ouais, c'est bien dit.
Oui. C'était la chanson que Mickey Rourke utilisait pour son entrée quand il faisait de la boxe. Donc, il y avait un truc un peu qui rejoignait boxe, catch.
Bah, il le fait, oui, dans le film.
Ouais. Exactement. Ouais. Il y a une scène dans le film durant laquelle Randy the Ram se fait saigner le visage avec une lame de rasoir. Eh bien, Mickey Rourke l'a vraiment fait. C'est pas un effet qu'on voit à l'écran, c'est vraiment son sang, en fait. C'est une proposition qu'il a fait à Aronofsky en disant, je vais vraiment me saigner le visage, quoi. Quel acteur.
D'ailleurs, je trouve que la scène, justement, du catch hardcore, là, elle est très dure à regarder.
Ah, c'est chaud, ouais. C'est dur. Sens qu'il a mal. Enfin, ça
te... Il y a un côté, enfin, c'est de, ça va dans le pathétique et tout, et tu t'as l'impression de voir, il est pas vieux, mais t'as l'impression de voir un vieux, c'est vieux, se faire mal et
se faire torturer,
un truc de slasher.
C'est les gens et tout qui kiffent et sont là, ouais, allez, plus fort et tout. Ah, c'est dégueu quand même, les gars.
C'est horrible.
Ça pisse le sang et tout. Enfin, c'est pas kiffant.
Mickey Rourke, qui d'ailleurs a toujours été le premier choix de Darren Aronofsky, mais durant plusieurs mois, le studio souhaitait lui Nicolas Cage à la place. Ça s'est joué à rien et Aronofsky s'est battu
à 230 kilos. Ça s'est joué à 230 kilos de barbac.
Cage dans The Wrestler, pourquoi pas? Ça aurait peut-être pu marcher. On préfère Mickey Rourke maintenant qu'on connaît le film.
Il en aurait fait trop, le frère. Déjà, comment tu fais pour avoir des cheveux aussi longs, là?
Mais Mickey Rourke,
ça l'aurait pas fait.
Mickey Rourke, ce qu'il a, c'est qu'il est fatigué. Dans son rôle, il est fatigué, on a besoin de ce...
J'avoue, j'avais été voir le film en sachant que c'était son comeback. Comme tu disais tout à l'heure, il a failli en avoir plusieurs, quoi, avec Tarantino, etc. Mais voilà, tu ne pouvais pas faire mieux, quoi. C'était lui. C'était comme... alors, j'en suis dégoûté, quand même, mais mon autre grand... Robert Downey Jr., quand il arrive dans Iron Man, tu fais « perfect ». Le gars qu'il fallait prendre pour le dire « ok, c'est un gars qui travaille sur lui, machin, etc. » Dommage qu'il soit enfermé pendant 11 films après.
T'as raison, j'aime bien ces histoires d'acteurs qui sont un peu comme ça, qui ont eu un bon passé, mais qui sont un peu dans la mouise, etc. Et qui d'un coup reviennent comme ça avec un film qui marque et tout. J'adore ces histoires-là, c'est cool.
Est-ce que tu penses que Mel Gibson
Mais ce que finalement, on n'a pas réussi vraiment Mel Gibson. On pensait qu'il aurait réussi avec le film avec Jodie Foster. Là,
je pensais, The Beaver.
Ouais, voilà, exactement.
The Beaver, il est génial.
Et finalement, bon, ça n'a pas vraiment pris.
Ah, il a refoutu un peu le bordel après.
Ouais. Autre info croustillante, dans le film, il y a un acteur qui s'appelle Scott Siegel, et son rôle dans The Wrestler, c'est de vendre des stéroïdes. Et bien, quelques mois plus tard, dans la vraie vie, il s'est fait arrêter par les flics pour vendre de stéroïdes.
Ah ouais.
Ah bah, il joue bien. Mais surtout dans The Wrestler. Mais non, mais.
C'est super bien, mais je bosse mon rôle. C'est tourné, mec.
Il n'y a plus de caméra, c'est fini, arrête de les vendre.
Ça rec là, non, ça rec? Non, ça rec pas du tout.
Il est sorti d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'il est costaud, lui?
Ouais, c'est un gros stocos, ouais.
On m'a dit, regardez-moi ça, t'as vu son biceps?
Son cou, c'est une petite une bagnole.
Dans la célèbre émission de radio d'Howard Stern aux États-Unis, Hulk Hogan déclara que le rôle principal lui avait été proposé, mais qu'il refusa parce qu'il ne le sentait pas. Lorsque cette déclaration fut rapportée à Darren Aronofsky, ce dernier répondit, bah non, en fait, on ne lui a jamais proposé quoi que ce soit, c'est pas vrai.
Ouais. N'importe quoi, on en fait, pas... tout ce qu'il raconte.
Surtout, je crois qu'à l'époque, il était dans la mouise d'histoire d'adultère et tout.
Ouais. Hogan, ouais. Et il a raconté ça alors que personne ne lui a proposé un rôle, quoi. Il s'est fait un petit délire à la radio, tranquille.
Il était chelou, les gars.
Bizarre.
Le jeu vidéo NES, justement, on en parlait tout à l'heure, qu'on voit dans le film, a été spécialement créé pour The Wrestler. Ça veut dire qu'il n'existe qu'une seule copie de ce jeu, même si j'imagine que c'était une cartouche.
Un truc sur ordi, oui. Voilà. Avec des câbles derrière planqués, c'est le cinéma.
Exactement. C'est le cinéma, oui, c'est la magie du cinéma.
Ouais, okay,
Mickey Rourke a pratiquement accepté de jouer gratuitement dans ce film. C'est l'info que je vous donne. Ouais. Et c'est Darren Aronofsky qui le raconte le mieux dans une interview parue dans le New Yorker en 2014. Il explique, Mickey Rourke a été payé $5,000 seulement pour The Wrestler. $5,000.
Non, je te crois pas.
Je croyais que c'était très peu, c'est une info. Beaucoup plus. Je pensais que c'était vraiment...
Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'il a été payé $5,000 et il a demandé à les recevoir en liquide et dans un sac en papier marron, ce qu'on trouve au supermarché. Ouais. C'est comme ça qu'il a été payé. Donc en liquide dans un petit sac.
Je l'adore.
Des points
tu l'adores, cette anecdote. Hein. Tu l'adores encore plus.
Là, celle-là, j'avoue, dans deux, trois là, que je connaissais.
Celle-là, t'en raffoles particulièrement, tu la raconteras des dîners et tout.
Ouais, okay. J'espère à Rourke.
Avant de penser à Rourke, Aronofsky souhaitait également Sylvester Stallone, avant de se rendre compte que ça pourrait entrer en collision avec son personnage de Rocky et qu'il fallait quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que ça aurait été bizarre, un peu Rocky, et ça faisait un peu Reddit, je trouve.
Ah oui, bah, qu'il existait.
Avant de se rendre compte, c'est drôle, avant de se rendre compte. C'est-à-dire, attends, il a joué dans quoi, déjà? Ah ouais, non, Rocky, ouais, non, c'est vrai.
C'est vrai qu'il est imprégné de ce truc, tu dis, ah non, t'es déjà une emblème, en fait, qui existe, alors que c'est la grande Isora, mais il n'existe pas, c'est parfait.
Et enfin, Darren Aronofsky a avoué s'être beaucoup inspiré des frères Dardenne pour mettre en scène ce film. Et c'est vrai que plusieurs séquences rappellent la réalisation des frères belges en garde The Wrestler.
Ouais, dans le dos, des petites épaules à la Gus Van Sant.
Exactement. Et même la scène où, moi, il y a un plan que j'adore dans The Wrestler, c'est, je crois que c'est un des premiers plans du film où on le voit de dos, un peu ravagé comme ça, seul dans une salle de classe de maternelle.
Ouais.
Et
ouais.
Ce plan, il est vraiment marquant, je trouve. On approche de la fin de l'émission, mais avant de se quitter, c'est triste. Le segment du dernier de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines.
Oui.
Vincent,
dramatique. Je me suis dit, tiens, pense à ça, puis non.
Écoute,
j'étais trop occupé à faire une fresque. J'ai peint une fresque. Non, je déconne. J'étais en train d'emballer l'Arc de Triomphe. Vous avez vu ça?
Ouais, c'est pas mal ce que t'as fait.
J'ai énormément
trimé. Tout le monde a la rage contre toi, mais c'est pas mal. Le dernier film que tu as vu au cinéma, Vincent?
Alors, ça va faire pomper, mais en fait, bizarrement, je n'y vais vraiment plus depuis un moment, alors que, j'ai pas une baisse de passion, mais j'ai peut-être eu un petit coup, besoin de souffler, bizarrement, c'est bizarre. Quand les cinémas ont réouvert, je me suis dit, je vais y repasser ma vie, et non. Et donc, j'ai vu que deux films, c'est vrai, ouais.
Ouais.
J'ai envie, mais c'est, il y a trop de monde. Et on est tout, Mila, ça m'a, donc, je me dis, je vais me faire un petit film. Mon gars. Comme je regarde pas de bande-annonce ni rien, à chaque fois je lis trois mots, ça m'a complètement torché au sol.
Alors ça raconte quoi, Mila?
Une gamine, alors c'est australien, je pensais que c'était anglais, mais je m'étais renseigné plus tard, je me suis dit, ça se passe où? Je sais pas si ça se passe en Australie. Bon. C'est une réalisatrice australienne, j'ai oublié son nom. C'est la personne qui veut le voir, le fait d'être surpris du début à la fin m'a surpris. Mais bon, une gamine qui est malade. Pas, aller dans
deux mots, alors, vite fait.
Je sais pas comment l'expliquer bien, parce que je parle très mal, vous me connaissez, je m'exprime mal, c'est pour ça que je veux plutôt faire du cinéma plutôt qu'en parler.
C'est toi qui rédigeais si vous avez raté le début dans Télé 7 jours ou pas, parce que.
Tu... Ouais. Je bossais sur les contes de la crypte et la météo. une gamine qui est malade et qui va apprendre à vivre avec ça en famille et avec une rencontre d'un espèce de petit quepon, un petit punk. Qui traîne et un petit Rourke de 19 ans, on va dire.
Ok.
Rebelle, vivace, viandard.
Le dernier film que tu as vu via une plateforme?
Excusez-moi, c'est un petit peu long. C'est dramatique. Mais je vais démonter le truc. Mais on parlait de Mel Gibson. Je l'ai tenté par humour et je me suis dit non, dramatique. Et c'était une boucle temporelle. Excusez-moi. Boss Level, merci beaucoup.
Moi, j'ai bien aimé ça.
Je
suis très lent.
C'est son dernier film, ça?
Ça va pas.
Non.
Dynamique et tout, c'est coolos, mais c'est pas du cinéma, quoi. J'ai l'impression de regarder
Mel Gibson dedans, ou?
Non, il est, tu sens les jours de tournage. Tu fais, oh là, le crossboarding de Panning, je vois, là, boum,
il a tourné deux jours.
Là, il a changé son pull et puis terminé. Mais, il arrive à être bon, mais il fait une pirouette, quoi.
Ouais.
Et je spoil parce que je m'en ai rien à foutre, je respecte pas le film. il meurt, tu vois Mel Gibson mourir 11 fois, c'est ça qui m'a fait rire à un moment, c'est que je me suis dit putain. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il vraiment il a signé pour des Amazon là, parce qu'il y a un autre truc avec Emile Hirsch.
Un peu comme Bruce Willis depuis quelques temps.
Ouais, là, Bruce Willis, je crois qu'il s'en bat les couilles.
Ah, lui, c'est le
pire. lui s'en fout. Non, Mel Gibson, je pense qu'il a dû dire bon, je suis obligé de les faire. Mais là, c'est vraiment C'est pas un navet parce qu'il est dynamique, mais voilà.
Il y a un truc qui a changé récemment, je l'ai partagé sur Twitter et Insta. En gros, Bruce Willis, c'est un peu une première. Bruce Willis a joué dans une pub russe.
Ah, j'ai vu ça.
Et en fait, c'est du, comment on appelle ça, du...
Deepfake.
Deepfake.
Ouais. Vraiment
et, et en gros, il a juste prêté donné sa voix. Donc, non, même pas. C'est, il a même pas prêté sa voix. Il a donné son autorisation de loin en disant, bah ouais, faites un deepfake sur moi. Mais vous me payez comme si j'avais joué dans la pub, en gros. Donc, il est juste resté chez lui. Et on a là un deepfake avec un mec qui a imité la voix de Bruce Willis. Et lui, il a touché plein de thunes juste en restant tranquille chez lui. Mais et du coup, ça ouvre un nouveau pan dans la pub, dans l'entertainment. Non, c'est-à-dire que maintenant, tu peux gagner de la thune à vraiment rien foutre et juste.
On rappelle que Vincent n'est pas dans le studio.
Comment?
Vincent n'est pas dans le studio.
Non, ma voix est synthétisée. Elle est totalement synthétisée. Non.
Vincent, c'est quand même une transition assez incroyable.
Je pensais Robbie Williams.
Vincent qui imite Bruce Willis.
Alors, je n'ose plus trop le faire depuis que Patrick Poivet est décédé.
Ah oui, c'est un manque de respect. Je me suis fait un hommage.
Tout seul, j'ai fait oh là là, mec, ça se trouve. Voilà, il te regarde en fantôme, il fait qu'est-ce que t'es en train de faire.
Bruce Willis.
Je me suis entraîné vraiment des heures en bagnole. J'ai appelé ma sœur, genre mort de rire. Je masque mon numéro, j'appelle et je fais salut, c'est Bruce Willis. Ma sœur fait allô Vincent.
Il fait trop bien.
Mais ouais, ma sœur m'a grillé direct et a fait Vincent. Elle dit ouais, ok, tu penseras au fait à prendre machin et tout. Je fais ok, à parler d'autres choses. Je fais d'accord, bisous. Et je me suis réentraîné 2 heures de bagnole au retour. J'ai passé mon temps à faire bonjour, c'est Bruce Willis, machin, etc. Et à faire des voix feu vert, la patte de l'expert. On m'avait embauché pour essayer de faire une voix pour un truc radio. Et genre, il fallait que je balance et j'y arrivais pas, je suis pas très bon, j'articule pas, t'as vu le massacre. Et le mec, il me dit de faire des trucs et puis après, il me dit non, bah, et pour déconner, je lui fais vraiment la même phrase. Je fais la poêle Tefal à 25,95€ sur machin, etc. Enfin, je balance. Et le mec, il fait, bah, c'est très bien ça. Je fais, j'adore. Mais mec, t'es fou, c'est Patrick Poivet. Il fait, ah ouais, c'est vrai que j'ai pas capté. Je fais, okay. Donc après, j'ai adapté, j'ai piqué des trucs à Poivet. Je me suis dit, ah ouais, il ouvre vachement les A, les trucs comme ça. Okay. Il parle fort, il fait des petites pirouettes.
T'as des autres imitations ou c'est la seule que tu maîtrises?
Je tripe beaucoup, mais je vais pas tester les nouvelles. Non, j'en fais plein, mais pour des dessins animés, des trucs genre les Roger Rabbit et tout, je suis fou, ça me fait kiffer.
Alors tu sais, ici dans notre équipe, on l'a déjà fait une fois.
Si on fait un jour,
moi j'adore quand il épate les gens. C'est un peu mon poulet imitateur là-bas.
Ah, attends, non.
Et Christophe, toi?
Il m'a pris comme ça là, de cours.
Ouais, je vais prendre cours.
Mais après, faudra faire Renault.
Ah, faudrait faire un.
Ah oui. J'ai déjà fait.
Ouais, mais faut faire Renault aussi, j'ai déjà fait. Ok. Ça va être
terrible. En plus, je sais ce qu'il va dire.
Ça va être terrible. Bah oui, je dis toujours la même chose.
Il dit toujours le même mot.
C'est bien pour s'entraîner.
Attention.
J'avoue. C'est pas un bonheur.
Ouais, il dit toujours pareil.
C'est un peu ça. Il y a un peu de ça ou pas? J'ai bien fait ou pas?
Oui. Je suis mort de rire, c'est pour ça que je dis rien, parce que c'est audio.
Renaud, maintenant, Renaud, tout de suite.
Renaud. Vas-y.
Lise Libération, les bobos. Sur la même phrase,
Moi, il y en a qui me font triper parfois, mais genre tout seul, je me dis ça va, et puis parfois non, parce que peut-être parfois ça résonne dans ta bouche, dans ton truc, dans ta tête, et puis parfois t'as des potes qui sont hallucinés, qui font, mais mec! Et tu fais, bah ça fait 10 ans en fait que je le fais tout seul et je pensais pas que ça marchait. Moi, il y en a une qui me fait triper en ce moment, j'essaie de bosser ça. Nicholson, tu me dis si c'est pourri,
ah, tu
attends,
diras. Attends, déjà, j'essaie
Nicholson
de me rappeler
dans la VF, ouais.
Okay.
Attends, merde, faut que je me...
Concentration. Fermez les yeux si vous écoutez le podcast.
De la merde. C'est dans Batman quand il... Allez, c'est de la merde en boîte.
En fait, je dis les résultats
que ça va être. Non, j'avais l'impression qu'il parlait comme ça avec un cheveu sur la langue.
Quand est-ce qu'il commence à faire la voix de Nicholson?
Pardon. Je te la balance, c'est con. Là, c'est Roger Rabbit, a priori.
Ah, c'est putain. Non, là, j'étais sur les roues Pirelli. Oh. Ah non, mais il m'a fait triper avec la cheveux sur la langue. J'ai vu une interview du gars qui dit qu'il était épuisé de faire Nicholson et tout. J'ai fait triper sur cette voix. Et je me suis dit, putain, mais grave, il a un petit cheveu sur la langue tout le temps comme ça. Ça me faisait triper. C'est un massacre.
En tout cas, le Bruce Willis, on peut dire.
Écoutez, le de la merde de la merde.
C'est quoi, c'est un 9 sur 10?
Ah ouais, 9 et demi.
Non.
9 et demi, ça, si. Très maîtrisé.
Je faisais pour Le Monde à l'envers la voix off de leur truc parodique. J'ai dit leur truc, attends, c'est un sketch, mais je veux dire, c'était mariage, 4 mariages, l'une
des mères. Oui, c'est vrai, je m'en souviens.
Et on a écouté, parce qu'à un moment, on s'est dit, bah attends, est-ce qu'on n'est pas en train de faire nawak? On a écouté le vrai, on a fait, bon, ok, c'est de la daube en boîte. Parce qu'en fait, ça ressemble pas du tout. Il a une voix de daron.
Ouais, c'est quand même.
Ouais. Non, tu le fais très bien.
C'est bon, arrête, tu le fais très bien.
Nicholson.
La dernière série que tu as regardée?
Alors je regarde très très peu, je suis très difficile parce que je me dis j'ai envie de regarder que des bons parce que c'est très long souvent. Donc merde, on n'a pas le temps quoi, on a une vie. Et donc je m'étais dit bon ok, donc j'ai regardé les Mad Men, j'ai regardé Soprano. Ah non, ok si, je regarde enfin The Office que j'avais regardé à l'époque les débuts, etc. Puis je m'étais dit, bon, je regarderai un jour. Jamais. Puis on m'a dit, mais toi, tu veux pas regarder Crazy Office? Et j'avoue que là, je suis tombé sur des bombes d'épisodes de saison 3, 4, je sais pas quoi. J'ai fait, ok, je reprends un Z et je rattaque. Donc c'est ça que je regarde.
Ouais. T'as fini The Soprano, Guillaume? Je sais que tu regardais.
Non.
En quoi t'as fini?
Non, je me suis, ben non, mais en fait, je me suis un peu, il y a un moment où ça commence à être long, je sais pas, je me suis un peu démotivé. Faudrait que je m'y remette.
C'était Mad Men où je l'ai vraiment étalé sur 2 ans, je crois, ouais, tranquille. Je prenais mon temps. Je dis, ouais, mec, tu te fais là, t'as là. Mais très régulier, mais dans sur un an, je pense, en fait.
Moi, pareil, Mad Men, j'aimais bien, mais j'avais du mal à me motiver parfois.
Ouais, ouais,
que je reprenne un peu, que j'attende un peu, tu vois, donc c'était un peu long.
Une fois lancé, moi, je m'en tenais.
Ah, c'est Mad Men, j'ai vu la saison 1, je crois.
Ah, bah, le.
Et après, le personnage principal, il est cool, mais je sais pas, j'avais pas d'empathie pour le personnage.
Le thème m'a plu, quoi. Je me suis dit, le mec, il hésite entre s'éclater la tête et de rouler en bagnole dans la poussière et de pas réfléchir et de s'éclater la tronche avec ses potes ou d'assurer d'être bien rangé dans le costard et être tout propre. Ça m'a plu. C'est moi, je me suis dit, ça parle à toute une génération.
La dernière chanson que t'as écoutée?
Pareil, j'écoute très peu de musique, c'est complètement fou quoi, comme truc. Ah, là, par contre, je vais pas pouvoir répondre, je n'ai rien en tête. Rien.
Une chanson au hasard?
Bah, Bruce Springsteen, peut-être.
Busta Rhymes.
Busta Rhymes,
okay. I'm a man, I give it to me. C'est avec Mariah Carey. And then with you. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You
know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. Après Busta Rhymes, Mariah Carey.
Oh merde, c'est un massacre ce podcast, ça va ou pas?
I know what you want.
Mais merci mec.
Ah joli. Le dernier livre que tu as lu?
Cet été, attention, ça fout le moral.
Ok.
James Joyce, Jean de Dublin. Et je sais que je l'avais acheté, attaqué il y a longtemps. Et ça détruit le moral. C'est fait pour péter le moral. Il y a de la flotte, ça tombe, ça va pas.
Ok.
C'est des petites nouvelles comme ça, mais c'est magnifique. Mais je crois que ça date de 1905, je sais pas, faudrait vérifier.
La dernière BD ou le dernier manga que t'as lu?
Vraiment, c'était très très beau.
C'est Tanguy.
Non, que des romans graphiques, moi. Non, si. J'ai relu, Formica de Fab Caro, comme dirait mon meilleur ami Jambon, Fabien Caroline. C'est super. C'est tu ris à voix haute, quoi. Ça me plaît énormément.
Il est fort.
On doit souvent citer Fab Caro, mais c'est une montagne, c'est parfait. Donc, ouais, Formica.
Le dernier objet culturel que tu as acheté?
Un flingue. un objet, ben je sais pas. Ah si, ben on parlait de Blu-ray, donc je me suis fait un moment, donc je suis un des derniers tarés. Enfin, un flingue en porcelaine. Il dit ça dans le 2, je sais pas pourquoi, à un moment il fait « Vous avez un flingue en porcelaine ?»
Ah, il dit ça ?
Ouais.
Ok.
Je m'avais toujours tué, je me dis « Pourquoi il parle de flingue en porcelaine ?» Après, je me dis « Ah ouais, c'est qu'en fait, ça passe les portiques de sécurité. » Bon, bref. J'ai acheté des Blu-ray, des DVD comme un abruti, donc des trucs à 1 balle ou plus. Et il y avait Invasion Los Angeles. Attends, c'est bien ça? Ouais, j'avais jamais vu, mais en fait, vraiment, je recherchais des trucs comme ça en me disant, j'ai envie de perles classiques où je sais que je vais être content d'avoir le DVD dans les pattes, même si j'ai jamais vu. Donc, j'ai cherché du Carpenter, des trucs comme
et
ça.
Et tu l'as vu finalement?
Et tout Jake avec Nicholson. J'aime bien.
La merde,
suite de Chinatown. Vous vous souvenez pas dans le 1 quand il fait ça, quand il épluche les photos devant Vicky, c'est le Joker, qui épluche les photos comme ça, puis il fait de la merde. De la merde.
Ouais,
le
manga,
c'est le
ça, tu l'avais vu mal.
Ouais, je l'avais vu là.
Bon, arrêtez vos conneries.
Ouais, c'est vrai.
Non, je déconne. Non, mais voilà, des Blu-ray, puis j'ai deux livres sur le Pacino qu'on m'a offert.
Cool.
Voilà, bonne soirée.
Et enfin, le dernier artiste que t'as suivi sur Insta, Twitter, ou alors un artiste que t'as bien suivi, justement, on parlait du compte Insta de Mikero.
Je déconne pas, je vais pas pouvoir aller plus loin que ça, parce que je suis de 3 gars... ici et là, mais je...
Smaïn,
non? Smaïn, ouais, beaucoup. Bah, tu sais que je... Non, ouais, j'ai une anecdote, mais il est très, justement gentil.
Rocky, il y a une anecdote sur Smaïn, apparemment.
Allez.
Non, c'est que... non, rien. Je... Bref. non, vraiment rien. Rien de spécial. Du coup, c'est même pas drôle. Du coup, je me dis, je me tais. Non, Rourke, que je suis, parce qu'il me fait triper. C'est lui qui écrit. Enfin, je sens qu'il a son assistant qui gère un peu son business, mais... Il doit dire au moins un gars, vas-y, poste ça, s'il te plaît. Mais je pense que c'est lui qui est aux manettes parce que
ouais,
il répond aux gens.
Ah ouais?
Quand c'est un truc de merde, quoi. Parfois, il est vulgaire de ouf. Il est pote avec, alors par contre, c'est vrai que c'est pote, parfois tu comprends pas, mais genre, tu sens qu'il est pote avec Mathias Schoenaert, je kiffe, moi, cet acteur. Ouais. Mathias Schoenaert, mais c'est vrai que derrière, genre, il y a Carla Bruni. Il s'est fait prendre beaucoup en photo par Richard Rojard, mais bon, il est décédé, je crois. Pote avec Laetitia Hallyday, parce qu'il était pote avec Johnny. Parfois, il poste des photos de Johnny, puis il dit tu manques mon frère et tout.
Ah, c'est drôle.
Et tu vois ses amitiés, les trucs. Donc, il y a des mafieux italiens de Miami ou Los Angeles.
Ouais.
puis après t'as une vieille rombière, et puis après t'as
il y a de tout. En fait, c'est marrant parce que ce que tu me racontes, ça me fait penser que typiquement dans 20-30 ans, si Mickey Rourke n'est plus de ce monde, il pourrait complètement y avoir un film sur sa vie en fait.
Ah, là vraiment.
Il y a de quoi raconter des choses, quoi. En fait, entre la boxe, ça, entre le cinéma, entre ses fréquentations, entre la drogue, tout ça, Rocancourt. Ouais, il y a plein de choses à raconter, en fait. Le Golden Globe, quand il revient au sommet et tout.
Vu qu'il s'écroule et qu'il remonte.
Et qui pour le biopic, alors? Pour jouer Mickey Rourke?
Ah, bah, mon gars, tiens. Je sais pas, ce serait intéressant, ça.
Pierre Ninet?
Du coup, faut choper un ricain, mais si ça se trouve, en fait.
Non, mais j'en ai un, pourquoi pas Chris Pratt?
Alors, c'est mon premier, mais je me dis, le physique, non?
Trop rigolo.
Channing Tatum! À fond.
Ah, alors moi je dirais un mec qui paraît pas encore gaulé, ça se trouve, mais tu fous Zac Efron, je déconne, mais ça se trouve la gueule de Zac Efron dans quelques années, tu peux lui donner une gueule jeune.
Ouais, peut-être.
Et un peu après tu lui dis on retourne dans un an et demi.
Zac Efron, tu dis il est pas encore gaulé.
Je déconne. Ah oui, c'est vrai qu'il est. Non mais ouais. Blague dans Baywatch là.
Non mais il est archi gaulé.
Dans Baywatch, il a avalé de la terre, il s'est mis ça dans la... c'est n'importe quoi. Non mais ouais, il faudrait un gars comme ça, un peu de petite gueule, puis un flegme quoi. Mm. Et c'est pas si à trouver.
Ce podcast est désormais terminé.
Et j'ai dit Zac Efron, non, on va reprendre tout ça. Ça va pas du tout, là, je suis fatigué.
Vincent, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu? Est-ce que tu prépares des choses actuellement?
Très bien, puis. En plus, zéro impro, j'ai redit les mots que vous avez dit juste avant.
De la merde.
Oh, ça, t'es bien. De l'écriture, un peu. Voilà. Et puis bah, une petite surprise, parce que j'ai pas encore dit à personne que je jouais dans un film qui va être très très cool, qui arrive en 2022. Okay. Mais du coup je garde la surprise, parce que pour l'instant, ça, vu que je l'ai dit à personne de vraiment,
mais garde la surprise,
ça a pas été dit,
toi.
Je l'ai vu nulle part sur les réseaux, donc j'ai fait bon, c'est, ça va faire une surprise zéro. Il y en a qui vont dire ah, il y a un gars qu'on connaît pas qui est dedans, génial.
Donc rien à foutre. Donc tu seras au mais, cinéma pour en ceux 2022, qui c'est l'info que tu
ouais dans tous les cas ouais. C'est bien.
Au fait, avant de se quitter, j'avais dit il y a deux semaines que l'épisode avec des abonnés, donc deux d'entre vous, comme l'année dernière, allait se dérouler aujourd'hui. Mais finalement, j'ai changé d'avis, car je me suis dit que c'était plus cool de le faire pendant l'épisode de Noël. Je vous expliquerai tout ça sur Insta en temps voulu. Ah. Et bien évidemment, cet épisode aura bel et bien lieu. Donc voilà pour la petite ambiance Noël. Quoi.
Ah, ouais.
On sera tous ensemble pour Noël.
Vivement Noël.
C'est pas mal.
J'ai envie, j'ai hâte.
Tu peux revenir.
D'autres interventions plus moyennes.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir The Wrestler. Et si vous cherchez des idées de films, vous avez toujours le précieux outil Cinematcher dispo sur le site de We Love Cinema. Merci à Ninon et Timothée qui ont contribué à réaliser cet épisode. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines. Bye tout le monde, merci Vincent, ciao.
Merci. Ciao.